Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Commute, épisode de mars 2023, ravi de vous retrouver pour votre podcast sur la mobilité, ravi d'être avec vous. Je suis en compagnie aujourd'hui de Chloé.
Bonjour. Salut.
Chloé, comment tu vas ?
Ça va très bien, un petit peu dégoûté de ne pas être à la Concorde, à mettre le feu avec les autres gens, puisqu'on enregistre exactement au moment où on vient d'apprendre que le 49.3 avait forcé, ça avait été forcé. Donc là, il y a des tonnes de gens à la Concorde et du coup, voilà. Je me suis dit, ok, podcast avant tout, mais j'aurais bien aimé lancer des pierres sur l'Assemblée. Quoi.
Un peu en rapport avec notre sujet de ce soir, on va pouvoir le voir justement. Victor n'est pas avec nous aujourd'hui, on le salue quand même beaucoup. Il a énormément de travail actuellement et beaucoup de rendez-vous. Cet épisode est un épisode spécial puisque c'est le premier épisode lié sur la mobilité et le handicap. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir notre invité, un ami qui a fait le plaisir de venir ici ce soir pour parler justement des problèmes de mobilité liés à son handicap. Hugo, bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas ?
Ça va, écoute.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Commute. Ça me fait très plaisir de te recevoir.
Avec plaisir.
Ça fait un moment que je voulais t'inviter, mais on n'a jamais pu avoir ce setup justement ici pour pouvoir te faire venir et réunir les conditions idéales. Alors, Hugo, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu ? Présenter ton handicap aussi.
Ouais, c'est Hugo, j'ai 30 ans. Et je suis invalide moteur cérébral, donc c'est handicap de naissance.
Ah ouais ?
Voilà, donc j'ai toujours été en fauteuil. Et du coup, je sais pas si tu veux d'autres informations sur moi.
Pas spécialement. Voilà. Actuellement, tu es venu ici du coup en fauteuil. Tu as plusieurs types de fauteuils pour te déplacer.
J'ai deux fauteuils, un fauteuil manuel et un fauteuil électrique.
Alors, on verra un peu la différence avec ça. C'est vrai, il y a la révolution des fauteuils électriques de plus en plus en vogue actuellement, mais peut-être moins pratique pour certaines choses.
Oui.
Et ouais. Peut-être plus cher.
Et peut-être beaucoup plus cher. Après, ça, on pourra peut-être en discuter.
On
aussi.
Peut en discuter, mais pas forcément.
Ah. Pas forcément.
Parce qu'en fait, mieux remboursé par la sécurité sociale.
Voilà.
Et ben, c'est un peu l'objet de ce podcast ce soir. Et on est super content que tu sois là parce que je pense que tu vas mettre fin à plein d'idées reçues qu'on a, à plein de choses dont on n'a aucune idée. Ouais. Et on te remercie d'avance. Et je risque de te poser beaucoup de questions bêtes, donc je m'excuse par avance.
Non, mais je suis là pour ça. Bon, après, je tiens à dire que je ne suis pas le représentant officiel de tous les handicapés.
Bien entendu.
Donc mes avis n'engagent que moi.
Oui,
tout à fait.
Mais du coup, je suis ravi de pouvoir éclairer volontairement sur le handicap.
Complètement.
Très bien de le préciser, puisque cet épisode, qui je l'espère vous plaira, sera le premier d'une série d'épisodes dans Commute. On ira revenir sur les différents sujets mobilité et handicap, et on ira s'intéresser aussi à d'autres types de handicap, handicap visuel, sourd et muet, etc., ou d'autres handicaps de motricité mineure comme majeure, voir si nos environnements aujourd'hui en France, on va dézoomer pas mal de la France au monde aujourd'hui dans cet épisode, sont aujourd'hui adaptés, on est en 2023 quand même, à la mobilité pour tous. On le verra, c'est pas toujours le cas. Je rappelle que cet épisode sera quand même séparé de deux ponctuations. On aura une petite recommandation et aussi une partie news. Et pour commencer, on va faire un petit point sur les chiffres de mobilité et du handicap que tu as un peu compilé, Chloé, pour cet épisode.
Oui, parce que Victor n'étant pas là,
il fallait quelqu'un qui fasse des chiffres.
Qui soit cadré et chiffré. Ça va être très rapide. En gros, j'ai pris des chiffres de 2020 de l'INSEE. On comptait 850 000 personnes en situation de handicap moteur. et soit environ 1,5% de la population adulte.
En France.
En France. Et parmi elles, environ 45% se déplacent en fauteuil roulant. Donc, j'ai fait le calcul avec ma petite calculette, on est à 382 500 à peu près en 2020. Je crois que j'avais aucune idée de la proportion de personnes en fauteuil roulant en France, donc je découvrais ça avec vous. Donc ça, c'est le gros chiffre. Sur ce que j'ai noté, bien sûr, et ce dont tu voudras, si tu en sais un petit peu plus, Hugo, c'est de nous parler de la loi qui fait un peu... qui a regroupé la loi du 11 février 2005... Mmh.
Et la fameuse.
La fameuse, voilà, je sens que tu vas nous dire des trucs dessus, qui voilà, régit en fait toutes les conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap. Comme le disait Ken, on va parler là du handicap moteur, il y a plusieurs catégories de handicap. Et il faut que je vous les retrouve, mais en gros, voilà, on déroulera ça sur plusieurs émissions pour vraiment s'intéresser avec une expérience personnelle, essayer d'élargir sur une vision globale, quoi. Voilà, c'était mes petits chiffres du moment. Je vous en ressortirai au fur et à mesure de l'émission.
Parfait. Merci, Chloé. Alors, juste pour poser un tout petit peu le décor, quel métier est-ce que tu fais exactement, Hugo ?
Alors, je suis juriste en droit fiscal au ministère des Finances.
Ouais, merveilleux métier.
Merveilleux métier.
Donc, les lois, ça te connaît ?
Un petit peu, un petit peu.
Un petit peu, dit-il, un petit peu. Donc, cette fameuse loi du...
11 février 2005.
11 février 2005, tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu.
Bah après, j'ai pas révisé mes classiques avant de venir, mais le problème de la loi de 2005, en fait, c'est qu'elle est pas très contraignante. Et okay. Du coup, il y a plein de façons de la détourner. Et notamment à Paris, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments historiques.
Ouais.
Et donc, du coup, tu peux pas adapter tout. En fait, la loi de 2005 se confronte en fait au patrimoine et aux bâtiments historiques. Et du coup, c'est un peu compliqué à mettre en place... Il n'y a pas eu vraiment de mise en pratique très, très concrète, quoi.
Globalement, cette loi oblige à des aménagements pour les personnes en mobilité réduite dans les bâtiments ici. Mais c'est vrai que le Haussmannien, et on a pu le voir quand même un tout petit peu aujourd'hui, puisqu'on est dans le magnifique appartement parisien de la MUA, nous enregistrons ici. Il y a les quais Saint-Martin juste à côté. Non, mais c'est vraiment formidable. Mais d'un point de vue accessibilité au fauteuil, ça a été un peu la galère. Hein,
c'est pas ouf.
Voilà, évidemment, deux marches imbloquables et un ascenseur trop petit pour le fauteuil.
Mais ceci dit, la loi de 2005 ne s'applique pas au logement privé.
Ah ouais,
voilà. C'est ça.
Donc en fait, la loi de 2005, c'est surtout pour les bâtiments qui sont censés accueillir du public.
D'accord.
Donc c'est pour ça que c'est aussi limité, c'est que, par exemple, les bars, etc., ne sont pas soumis à la loi de 2005.
Ouais. Sérieux ? Ah ouais.
Voilà, ce qui est un peu scandaleux parce qu'ils accueillent du public.
Ah ouais.
Donc,
Alors ça, c'est étonnant, je vais rebondir tout de suite, puisque avant, dans ma précédente vie, j'étais gérante d'Escape Game. Et au moment où j'ai lancé du coup mon commerce, j'ai travaillé avec des architectes qui m'ont dit voilà, la loi est passée, il faut avoir une accessibilité possible. Vu que j'étais considérée comme un ERP, un établissement recevant du public, dans les ERP, il y a différentes catégories. Bien sûr, ça va du centre commercial jusqu'à la boutique de 12 mètres carrés.
Mais il n'y a pas les bars, visiblement.
Il n'y a pas les bars, c'est ça qui est étonnant. Et effectivement, les architectes m'ont dit Alors j'étais de plein pied, donc j'avais une partie de mon escape game qui était accessible, mais j'avais des escaliers pour aller au sous-sol, donc j'étais bien embêtée, sauf qu'il a fallu trouver une façon de détourner, et c'est juste reporter à chaque fois, de dire oui, je vais le faire, les travaux dans quelques années, juste ça suffit à passer, ne pas avoir d'amende ou quoi que ce soit. Donc c'est très facile, effectivement, de contourner la loi. Quoi.
C'est très facile de contourner la loi, effectivement.
Et du coup, on en reparlera, mais c'est la même chose pour les métros. Qui sont des établissements recevant du public qui doivent être normalement aux normes et qui n'arrêtent pas de repousser les obligations. Ouais. Quoi.
Après, il y a aussi une question d'argent, en fait, tout simplement.
Par exemple,
la ligne 6, là, je crois que récemment, ils ont fait une étude et ça coûte 6 milliards d'euros. Quoi.
6 milliards d'euros, l'aménagement.
Et on ne le verra pas.
voilà. C'est possible.
Non, mais en fait, moi, personnellement, j'avais espoir qu'avec les Jeux Olympiques en 2024, qu'il y ait eu des aménagements au niveau du métro. Mais apparemment, ça coûte trop cher. Et dans une société capitaliste, le problème, c'est que quand on n'est pas rentable, comme les personnes handicapées, c'est compliqué d'espérer quelque chose, en fait. Donc... je pense que mes enfants ne verront pas le métro accessible et je ne pense pas que mes petits-enfants non plus. Donc
C'est vraiment bizarre, on en reparlera, mais il y a d'autres pays dans le monde qui, eux, sont bien mieux adaptés justement à ce type de
oui,
mobilité.
Après,
en France,
on peut en discuter, mais c'est aussi lié à l'histoire de la France.
Bien
etc.
sûr. Bien sûr. Alors, on va commencer en parlant un tout petit peu de ta situation et de ton quotidien. Donc, toi, Hugo, tu vis à Paris, d'accord ? Tu as un appartement à Paris et tu travailles aussi à Paris.
Voilà.
Mais tu n'es pas originaire de Paris.
Non.
Tu viens du Havre.
C'est ça.
Et on comparera
meilleure
un
ville.
Tout petit peu.
Meilleure ville.
J'adore le Havre.
Une des meilleures villes, ouais. C'est vrai ça. J'aime beaucoup le Havre aussi. Très bon torréfacteur. J'aime beaucoup le café. Et tu vas nous parler un tout petit peu, tout simplement, de ta vie au quotidien. Comment se passe ta mobilité au quotidien dans la ville de Paris ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Quels sont les problèmes que l'on rencontre en fauteuil à Paris ?
Oui, c'est vaste question. Déjà, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est adapté à mon handicap.
Formidable.
Ça, je suis un gros privilégié sur ce point.
Qui n'est pas le cas de l'appartement dans lequel on est actuellement, hein, je précise.
Donc, je tiens à remercier la mairie de Paris.
Ah,
si elle m'écoute,
voilà.
Merci Anne Hidalgo.
Merci Anne.
Voilà. Et donc, sur mon logement, j'ai aucun souci. J'ai la chance de pouvoir prendre ma douche, m'habiller tout seul, tranquillement. Après, la grande difficulté à Paris, c'est les transports.
Et oui.
C'est pour ça que je suis ici. Et du coup, en fait, moi, je prends le bus essentiellement.
Le bus, d'accord.
Voilà, puisque, comme on l'a dit, le métro n'étant pas accessible, sauf la ligne 14. Et donc, moi, je prends le bus. Donc, moi, j'habite dans le 8e arrondissement. Et mon travail, il est au niveau de la Bourse. Donc, en gros, il y a 40 minutes à peu près à pied. Et en bus, il y en a pour 25-30 minutes.
Tu préfères du coup prendre le bus que te déplacer en fauteuil directement pour y aller ?
En fait, j'ai remarqué que le fait d'y aller en fauteuil, bon déjà c'est plus long, tu perds quand même 20 minutes.
D'accord.
Et en fait, tu abîmes aussi ton fauteuil parce qu'il y a beaucoup de travaux à Paris. Hein.
Ah oui.
Voilà,
et
donc...
surtout, j'imagine que tous les trottoirs ne sont pas forcément adaptés, qu'il
c'est
peut
ça,
y avoir des scooters ou des Lime garés partout.
Voilà. Donc là, depuis que j'habite dans le 8e, donc ça fait 3 ans, je crois que j'ai crevé 4 fois mes pneus. Donc...
Sérieux ?
Donc voilà. Il y a beaucoup de travaux et ça, du coup, ça abîme le fauteuil.
Ah bah oui.
Donc c'est pour ça que je prends le bus, j'essaye de prendre le bus. Après, comme vous l'avez vu, je pense que le bus, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont réduit aussi le nombre de chauffeurs, etc. Donc les temps d'attente sont plus élevés qu'avant.
Ah ça, je ne savais pas.
Et alors, est-ce que tous les bus sont adaptés, ont des rampes du coup pour les fauteuils ?
Tous les bus
tous
sont
les
adaptés.
Bus. Okay.
Le problème, c'est qu'il y a des bus où les rampes sont en panne et qu'ils ne sont pas réparés.
Ah, c'est des rampes automatiques, c'est pas des rampes que le chauffeur installe,
non,
elles sont censées être automatiques.
C'est des rampes électriques en fait.
D'accord.
Le chauffeur appuie sur un bouton et la rampe se déplie
très bien.
Automatiquement. Mais si je suis honnête, le service s'est beaucoup amélioré depuis que je suis arrivé à Paris.
Oh.
Parce que quand je suis arrivé il y a 5 ans, en gros, un bus sur deux, la rampe était en panne et du coup, à chaque fois, je devais attendre le prochain, ce qui rallongeait beaucoup mes trajets. Ouais. Et là, j'avoue que dans 9 cas sur 10, la rampe fonctionne très bien et le chauffeur est très bien formé. Donc.
Mais il y a deux fois moins de bus, ce qui revient du coup au
même. Voilà, mais il y a moins de bus, effectivement.
Donc le bus, tu le privilégies. Aujourd'hui, là, t'es venu en taxi, ça t'arrive souvent de prendre le taxi ?
Ça m'arrive souvent, parce que en fait, c'est le moyen de transport le plus rapide pour moi, puisque du coup, je peux pas prendre le métro, et comme le métro, c'est quand même le moyen de transport le plus rapide, et ça évite les bouchons. Donc c'est vrai que le taxi, ça m'aide à aller plus vite, mais du coup c'est plus cher, parce que du coup le bus, je ne le paye pas. Mais oui, donc je prends le bus, une société qui s'appelle le KOKO. Donc c'est une société où en fait, les bus, c'est des bus londoniens, je ne sais pas si vous avez...
Oui, je vois très bien, des voitures londoniennes ou des mini...
Enfin, des taxis londoniens.
Taxis londoniens, électriques alors du coup, non ?
Je crois qu'ils sont électriques, oui. Et du coup, les rampes sont intégrées dans le taxi.
Ah, trop bien.
Et c'est vachement bien parce que du coup, ça m'évite de faire un transfert. Parce que j'ai eu pas mal de désagréments avec la société Uber.
Ah ouais.
Où j'ai été refusé de nombreuses fois.
Non.
Voilà. Alors qu'ils pouvaient très bien me prendre. Hein. C'est pas la question. Voilà.
Donc, même les valides ont le cas, donc c'est violent.
Donc, c'est vrai que c'est assez violent quand même quand t'es. À 2h du mat, quand t'es en plein froid et qu'on te refuse l'entrée dans un taxi.
Ça t'est déjà arrivé ?
Ah oui, c'est très souvent.
Très souvent.
C'est-à-dire que le taxi te voit, il te dit bon, moi je te prends pas, je veux pas abîmer la voiture. Et puis...
Je veux pas abîmer la voiture.
Quel tact ?
Comment ça, je veux pas abîmer
avec
la voiture ?
Avec le fauteuil.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont peur d'abîmer leur siège avec les roues du fauteuil, je sais pas, ce qu'il faut en plus.
Bah oui.
Donc la société dont tu parles, Cao Cao, c'est ça ? Est spécialisée dans le...
Ah, ils sont pas spécialisés, ils font des transports pour tout le monde.
Okay.
Mais il se trouve que leurs taxis, c'est des taxis type londonien.
Okay.
Et du coup, en fait, tous les taxis, il y a une rampe intégrée qui fait que bah, si t'es en fauteuil, tu peux rentrer dedans sans difficulté.
Mais j'en vois beaucoup tourner de ces taxis-là, justement. Et il me semble que c'est une société chinoise qui fait ces taxis. Celle qui a racheté de son les taxis londoniens.
C'est international.
On en avait parlé dans Commute, dans un épisode de Commute, une des news.
Aïe.
Eh oui.
J'ai loupé.
En tout cas, d'accord, Cao Cao, donc très très pratique. On va parler un tout petit peu du métro. Tu dis que le métro, c'est tout simplement une solution de mobilité qui t'est impossible à Paris et en région parisienne. Y a-t-il quand même des trains en région parisienne qui sont accessibles en dehors des lignes de métro ?
Oui, il y a le RER.
Le RER, il n'y a pas de souci pour y accéder ?
Si, y a un gros souci, c'est que les ascenseurs sont très datés.
Ah.
Et du coup, ils tombent régulièrement en panne.
Pour vous dire,
moi j'étais en formation pour mon métier à Noisiel pendant pratiquement un an.
Okay.
Du coup, je faisais le 8e arrondissement de Noisiel tous les jours. Et tous les trois jours, il y avait un ascenseur en panne. Et...
Sur quelle ligne de RER ?
Sur la RER A, donc pas la plus.
Ah oui, en effet.
Pas,
oui.
Pas la plus dégradée en plus.
Et alors, comment ça se passe pour toi du coup s'il y a un ascenseur qui est en panne ?
Bah, en fait, ils te proposent d'aller à la gare suivante. Donc, moi, j'allais Charles de Gaulle Étoile.
Ouais.
Et donc, quand c'était en panne à Charles de Gaulle Étoile, on me disait d'aller à Aubert. Donc,
Et tu devais te taper le trajet, une station de RER en fauteuil.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est la réalité quotidienne des personnes en fauteuil. C'est pour ça qu'on prend très rarement le RER quotidiennement, parce que c'est pas garanti, quoi. C'est pas rentable pour nous, en fait.
Et ouais.
En fait, la peur que ça fonctionne. Nous, on est confrontés tout le temps aux escalators qui ne fonctionnent pas. Mais bon, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, on grimpe, on descend.
Bien sûr.
Un ascenseur qui ne fonctionne pas, c'est un blocable. Tu ne peux rien faire.
Il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que moi, dans mon ancien logement, j'habitais à Montparnasse au début quand je suis arrivé à Paris. Et une fois, l'ascenseur est tombé en panne et pendant pratiquement plus d'une semaine, je n'ai pas pu sortir de mon logement. Quoi. Parce que l'ascenseur était en panne. Et qu'il fallait trouver une pièce et que la pièce, elle était en Chine ou je sais pas où.
Et comment t'as fait du coup durant
cette
période-là ?
Du coup, tu demandes à des potes qui te fassent les courses, tu te débrouilles quoi. Mais là, actuellement, j'ai un chien chez moi. Si l'ascenseur tombe en panne, je sais pas comment je fais pour, pour le sortir quoi. Non, mais c'est des réalités toutes bêtes, mais ça peut te foutre la vie en l'air pendant deux semaines.
J'ai l'impression que ça va être le mot d'ordre un peu dans ton discours, c'est tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'il y a,
on a pas le choix,
plein
en
de
fait.
Choses voilà, qui sont c'est... défaillantes sur l'encadrement là-dessus.
C'est-à-dire
et,
que c'est du système D assez régulièrement. Quoi. Mais bon, après, avec le temps, tu as l'habitude et tu remarques même plus en fait.
Alors, tu disais que tu constatais quand même une amélioration des choses de manière générale au niveau des bus, notamment au niveau des sociétés de transport qui sont un peu plus adaptées. Pourquoi dans le métro et dans le RER, il n'y a pas ces améliorations ? En tout cas, tu ne le ressens pas, à ton avis, ici.
Je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est une question d'argent, surtout. Mmh. Je pense que c'est,
tu penses
que
ça coûte si cher de réparer un ascenseur en panne, sincèrement ?
C'est pas que ça coûte cher, mais c'est que c'est des ascenseurs qui datent, en fait.
Mmh.
Et en fait, changer, je pense, toute la structure de l'ascenseur, c'est long. Ça va bloquer certains usagers. Et donc, en termes de rentabilité, ça ne le fera pas, je pense. Après, je ne suis pas un spécialiste des ascenseurs, mais... Mais je pense que s'ils ne le changent pas, c'est qu'il y a des raisons financières derrière.
C'est vrai que dans Commute, un des outils de mobilité dont on a peut-être le moins parlé, c'est les ascenseurs dans notre histoire.
C'est
mais c'est ouf à quel point c'est un outil essentiel pour les personnes justement en fauteuil. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, on va dire, aux ascenseurs ? Genre des rampes qui descendent peut-être en rond, qui descendent tout droit. Les descentes sont simples. Quand il y a des côtes et que c'est des rampes, est-ce que c'est très dur en fauteuil de les grimper ?
En fait, tout dépend si tu es en fauteuil manuel ou électrique. Électrique, évidemment, c'est aucune difficulté.
Ouais.
Après, en fauteuil manuel, si tu as l'habitude, c'est pas si compliqué. Après, ça dépend en fait du handicap que tu as.
Ouais.
Moi, je sais que musculairement, le fait d'être en fauteuil manuel, ça me demande beaucoup d'énergie.
Oui.
Donc, au quotidien, ça serait pas rentable pour moi de le faire. Mais il y a des gens qui sont juste paralysés, qui ont le haut du corps, qui est en très bonne santé, ouais. Et qui vont préférer être justement en fauteuil manuel, parce que bah, l'avantage du fauteuil manuel, c'est que ça tombe jamais en panne. Quoi.
Ça, c'est vrai. Mais ça peut ça,
crever. Ça peut crever, mais bon, c'est assez facile à remplacer. Hein. Alors qu'un fauteuil électrique, quand il tombe en panne, c'est un peu plus compliqué.
Ah bah justement, alors ça, on peut en parler un tout petit peu. Donc tu as dit deux types de fauteuils. Aujourd'hui, tu as ton fauteuil musculaire avec toi. Lorsque tu parlais des problèmes de crevaison, c'est surtout de ce modèle-là que tu parlais ?
C'est surtout mon fauteuil électrique parce que...
D'accord.
Voilà, ce fauteuil-là, en fait, tu l'utilises beaucoup en intérieur. Donc
ouais.
Il y a moins de risque de crevaison que...
Comment que, c'est des pneus avec des chambres à air comme les vélos?
Oui, ou... en fait, ça, c'est vraiment des pneus comme les vélos.
C'est, d'accord, c'est des pneus vrai. De vélo. Okay.
C'est des pneus de vélo. Et puis même, il y a des marques de vélos qui font des partenariats avec des,
ah ouais
des marques de fauteuils, ah ouais. etc. Bon, après, c'est un budget, mais y a des, je connais des personnes en fauteuil qui ont des roues en carbone
type... ça me parle, hein. Ouais. Ça me parle de ouf.
Vélo... Et c'est assez stylé, quoi.
Ah, j'avoue. Et donc, le fauteuil électrique, déjà, est-ce que ça coûte cher, un fauteuil électrique ? Quelle place ça prend et quelle autonomie ça a ?
Alors, moi, je vais parler de mon fauteuil électrique oui. à moi, parce qu'encore une fois, je suis pas le représentant de... Alors, mon fauteuil électrique, il va à 10-12 km/h.
Oh, ça me paraît rapide.
C'est assez rapide, mais... Au final, tu t'habitues vite et tu t'es vrai que ça aille plus vite. Mais
après, 30 km/h, c'est
comme les trottinettes.
Non, mais j'avais un copain qui avait acheté son fauteuil en Allemagne et les fauteuils en Allemagne ne sont pas bridés en fait.
Oh.
Et du coup, lui, il allait à 20 km/h.
Oh.
Ce qui était hallucinant en fait.
20 km/h en fauteuil, j'avoue, ça va vite.
Ouais, surtout à Paris en fait, parce que du coup, il y a beaucoup de gens sur les trottoirs et quand il allait au maximum, c'était. C'était assez impressionnant pour les gens qui le voyaient passer. Quoi.
Du coup, il faut peut-être un klaxon sur les fauteuils.
Ah, il y a des klaxons.
Il y a des klaxons, ok.
Enfin, c'est des klaxons électroniques. Hein,
oui, bien sûr. Voilà.
C'est pas comme les vélos, mais il y a des klaxons sur les fauteuils.
Combien ça coûte un fauteuil électrique ?
Enfin, ah, le tien, en tout cas.
Oui, le tien.
Alors, le mien, je peux pas dire exactement combien j'ai mis de ma poche, mais très peu, en fait, parce que les fauteuils électriques sont très bien remboursés par la Sécurité sociale. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une mutuelle également. Et le complément des deux fait que j'ai dû mettre peut-être une centaine d'euros de ma poche.
Ah ouais,
donc,
ça c'est plutôt bien.
Parce qu'en fait, les mutuelles, en France en tout cas, se basent sur le remboursement de la sécu pour rembourser leur part. Et il se trouve que, je sais pas pourquoi, mais les fauteuils manuels sont très mal remboursés, par exemple.
Incompréhensible.
Et donc, il se trouve que bah, ce fauteuil-là, j'ai dû mettre peut-être entre 500 et 1000 euros de ma poche.
Wow. Ouais.
Parce qu'en fait, ouais. Par exemple, les options sur ces fauteuils-là ne sont pas remboursées ou est-ce qu'on va estimer que c'est des options de confort ou d'esthétisme.
Alors que l'électrique, ce n'est pas du tout du confort.
Voilà, alors du que tout. L'électrique, on va être plus sur quelque chose de paramédical et on,
ah, oui, oui.
Et on va te dire... Après, encore une fois, il faudra interroger quelqu'un de la sécu.
Bien sûr. J'ai
pas toutes les données, mais bon, le fait est que les fauteuils électriques sont plutôt bien remboursés en France.
Ça me rappelle étonnamment... vélos musculaires, les vélos électriques.
On arrive à un moment où les vélos électriques vont parfois être moins chers que
c'est
certains
ça.
Modèles musculaires.
Parce qu'il y a des subventions là où sur les vélos musculaires, il n'y en a pas.
Ouais. Ouais, ce qui est assez drôle, c'est que là, récemment, je me suis renseigné pour... je ne sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler, mais il y a des troisième roues électriques qui se clipsent sur les fauteuils manuels.
Ouais.
Et donc, en fait, ça fait une sorte de trottinette.
Ouais.
Et en fait, j'ai de la chance, mais il se trouve que ces roues-là, en fait, sont remboursées comme des fauteuils. Comme des vélos électriques. Et donc, j'ai le droit à une subvention de 2000 euros sur...
Ce qui est une bonne chose,
oui, c'est une bonne chose, mais...
Mais c'est vrai que c'est pas logique c'est avec c'est les vélos...
Tu peux pimper ton fauteuil musculaire en électrique en ajoutant cette troisième roue.
Ouais.
Mais par contre, le fauteuil en lui-même, il est moins bien remboursé.
C'est ça, c'est...
C'est très étrange. Combien t'as d'autonomie sur ton fauteuil électrique ?
Alors, je crois que je dois avoir une trentaine de kilomètres.
Ça me paraît beaucoup. Est-ce que ça t'est quand même arrivé de tomber en panne ?
Ça m'est jamais arrivé de tomber en panne, je touche du bois. Mais il y a eu des fois où ça a été limite. En fait, surtout à la fin. Parce que, évidemment, comme tout système électrique, les batteries ont une durée de vie limitée.
Ouais.
Et donc, en fait, quand t'arrives, je crois que ça dure 4 ans à peu près. Quand t'arrives entre 2 et 4 ans. Il se peut que ta batterie tienne moins le coup. Et du coup, c'est compliqué
vrai.
De jauger à quel moment ça va s'arrêter ou pas. Donc, il m'est arrivé un peu de serrer les fesses en fin de journée sur est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi Voilà, mais ça m'est jamais arrivé encore.
Au quotidien, en tout cas, c'est ce fauteuil-là que tu préfères utiliser.
Bah, ça me préserve de l'énergie pour bosser notamment. Parce que je suis déjà venu en fauteuil manuel pour des raisons techniques, parce que mon fauteuil électrique était en panne, et t'as pas du tout le même... Enfin, t'as pas du tout le même ressenti à la fin de la journée, quoi. Quand t'as poussé ton fauteuil électrique manuel toute la journée et que t'as bossé en plus, à la fin, t'es juste claqué quand tu rentres chez toi et t'as juste envie de dormir.
Ouais, tu fais du sport en permanence toute la
journée. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, quotidiennement, si tu veux faire autre chose de ta vie que de travailler, c'est... Bon, en tout cas, pour mon handicap à moi, c'est plus... C'est mieux d'avoir un fauteuil électrique au quotidien.
Alors, on va se concentrer un tout petit peu sur la mobilité à Paris et regarder quel type de personne, quel type d'usager, tu crains le plus dans ton environnement. Est-ce que ce sont les piétons qui te posent le plus de problèmes ? Est-ce que ce sont les cyclistes ? Est-ce que ce sont les deux roues motorisées ? Est-ce que ce sont les voitures ? Est-ce que ce sont les bus et les camions ? Quelles sont les personnes qui donc partagent le même environnement que toi que tu trouves le plus gênant lorsque tu en es en fauteuil à Paris ?
Alors ma réponse va pas être populaire, mais je crois que c'est les cyclistes.
Cyclistes. Mais j'étais sûr qu'il allait répondre ça.
Bah en fait, le problème, c'est que les cyclistes, je les aime beaucoup, mais ils respectent pas les feux de signalisation généralement.
C'est vrai.
Et contrairement à quelqu'un qui est mobile, toi, tu peux pas sneak-flake pour esquiver.
Et voilà, et donc. Ah, et puis. Cycliste à la même hauteur que les trottinettes électriques, pour le coup.
Okay. D'accord, ok. Ouais.
Pour le coup, grosso modo, les gens qui respectent pas les feux de signalisation. Mm. Parce qu'en fait, accessoirement, ça a été fait pour quelque chose quand même.
Bizarrement.
Voilà, donc c'est vrai que les cyclistes qui arrivent à fond et qui respectent pas le feu rouge, contrairement aux voitures, c'est des choses qui, en plus, moi, j'utilise un casque de musique quotidiennement avec suppression du bruit.
Ah ouais.
Donc j'essaie d'être vigilant un maximum, mais c'est ça au quotidien qui me fait le plus peur. Mais après...
T'as déjà été percuté par un cycliste ?
Oui, ça m'est arrivé deux, trois fois.
Au nom de tous les cyclistes, quoi.
Ouais,
donc je ne fais pas de généralité.
Mais... Merci, tu sais qu'on est, cycliste tous ici, mais franchement, on partage évidemment ta peine au quotidien. Et même moi, un crève le cœur quand je vois des gens ne pas s'arrêter sans même avoir regardé, quoi.
Mais après, dans l'absolu, je préfère les vélos aux voitures. Je suis écologiste à fond, je préfère les vélos aux voitures, mais c'est vrai que...
Les voitures, elles te font peur quand tu te déplaces ou finalement, t'as assez peu d'interaction avec elles ?
En fait, les voitures, ça va le plus quand elles sont statiques, en fait. Par exemple, elles vont se garer sur un trottoir ou... Elles vont m'empêcher de passer. Voilà, ou des fois, elles vont se stationner sur un passage piéton. Et là, du coup, t'es obligé de faire un détour de fou pour pouvoir juste aller au trottoir d'en face, quoi. Mm. Donc ça, c'est surtout là où ça va être le plus chiant. Mais quand elles bougent, elles me font pas trop peur parce que généralement, elles vont pas super vite à Paris. Parce que les bouchons...
Ça, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Bouchons, 16 km/h en moyenne.
Voilà, donc...
C'est terrible, j'ai plus vite à vélo.
Alors, je rebondis du coup sur la voiture. Est-ce que tu as le permis ?
Non, je n'ai pas le permis.
Est-ce que tu avais la possibilité de le passer ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'était parce que c'était compliqué ?
Un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai fait des tests parce que après ma majorité, j'ai subi l'opération et du coup, j'étais en centre de rééducation. Il se trouve que dans ce centre de rééducation-là, tu pouvais passer le permis... pour les personnes à mobilité réduite. Mais en fait, les tests que j'ai faits, j'étais pas satisfait de mes réflexes au niveau des freinages, etc. Et du coup, alors je sais pas si c'est une question de confiance en moi ou quoi, mais j'ai vite abandonné parce que je me suis dit que c'était pas pour moi. Et puis après, j'ai pas un amour de la voiture non plus qui fait que...
Aujourd'hui, tu dirais que t'as des réflexes moindres qu'une personne, on va dire, mobile ?
Ouais, du fait de mon handicap, je suis beaucoup moins réactif que...
Et même avec le jeu vidéo, parce que tu joues pas mal à des jeux vidéo, c'est pas quelque chose que tu peux t'entraîner ?
Non, malheureusement, c'est pas... Moi, là, par exemple, j'ai acheté récemment Wulong.
Ah ouais ! Donc, Wulong, trop dur à terminer, c'est pas de bon réflexe.
C'est déjà trop dur à commencer pour moi, d'ailleurs que je suis arrivé au premier boss... J'ai transpiré, quoi. En termes de réflexe, c'est compliqué. Hein.
Ah oui, j'avoue.
Voilà, donc... Non, je suis... un peu compliqué pour moi, les réflexes et la rapidité.
Oui, donc c'est toi naturellement qui t'es dit je fais pas assez confiance à mes réflexes, donc je vais pas prendre le risque de me mettre en danger et de mettre en danger les autres.
C'est plus mettre en danger les autres parce que bon, moi je m'en fasse pas que je m'en fiche.
Quand même.
Est-ce que ce serait pas un message envoyé aux personnes âgées au volant?
Oui, par exemple.
C'est ça, mais non, mais pas après. Puis le fait d'habiter Paris aussi, ça m'a pas poussé non plus.
Sans déconner.
À passer le permis.
Est-ce que tu penses que t'y viendras quand même au permis de conduire? Genre, la voiture autonome, est-ce que c'est quelque chose qui te fait vraiment rêver?
Ouais, c'est un truc qui me fait rêver. Après, je sais pas dans quelle mesure ça sera bien.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que sur le papier, ça me fait rêver. Dans le fait de pouvoir prendre une voiture qui me conduit automatiquement. Après, je pense que même quand tu auras des voitures autonomes, il y aura quand même l'exigence d'avoir le permis.
Bien sûr.
Donc, je sais pas si je pourrais accéder non plus, quoi.
Très bien. Chloé ?
Oui, alors du coup, on a parlé de tes trajets en transport, de la question des cyclistes et de la voiture. En termes d'urbanisme, quand tu te déplaces avec l'un de tes deux fauteuils dans la ville, est-ce qu'il y a des choses, je dirais pas des recommandations que tu as, mais est-ce qu'il y a des aménagements auxquels les urbanismes pensent pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent du coup dans des trajets ? Est-ce qu'il y a des choses voilà, que nous, on ne peut pas imaginer comme problème quand on se déplace avec un fauteuil ?
C'est un peu compliqué comme question parce que bah, effectivement, j'ai jamais été valide, donc je ne sais pas trop les techniques que vous avez, etc. mais moi, ce que je constate au quotidien, c'est vraiment les travaux qui sont... En général, en fait, quand il y a des travaux à Paris, il n'y a pas le réflexe de penser aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite. Quoi. On fait des travaux et puis après, bah, débrouillez-vous. Quoi. Quitte à ce qu'on aille sur la route, qu'on se mette en danger, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc au quotidien qui m'agace le plus parce que bah, du coup, c'est très très compliqué. Puis après, à Paris, il y a un truc qui est compliqué aussi, mais qui va être difficilement changeable, c'est les petites rues, en fait.
Ouais. C'est-à-dire que c'est la taille des trottoirs.
Il y a énormément de petites rues à Paris et des trottoirs très, très étroits. Mmh. Et donc ça, c'est le truc qui peut être dangereux quand t'es en fauteuil.
Il faut que tu l'envisages. Est-ce qu'il y a des applications comme ça qui choisissent des chemins plus adaptés à des personnes à mobilité réduite?
Non, il n'y a pas d'appli... Il n'y a pas vraiment d'appli, mais par exemple, il y a l'application CityMapper qui propose en fait les trajets les plus accessibles. Donc, en fait,
C'est pas mal ça.
Ouais, c'est pas mal, mais grosso modo, à Paris, ça va te proposer juste de prendre le bus. Parce que... voilà. Donc,
forcément.
D'accord, ouais.
Voilà, le bus ou le RER.
Et en vrai, à travailler, hein, si vous nous écoutez, hein, on sait qu'il y a les fonctions piétons, vélo, moto, cycliste dans les applications comme ça qui arrivent de plus en plus. Proposer des options fauteuil pour justement prévoir peut-être des trajets en fauteuil plus adaptés pourrait être une bonne chose. Des estimations de temps de trajet aussi en fauteuil et pas forcément vas-y, saute dans le bus le plus proche et déplace-toi. Ça pourrait peut-être être cool, surtout dans les villes qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir parce qu'on le verra quand on parlera un peu de l'étranger. Mais on n'a pas du tout la même notion de l'urbanisme et justement de la gestion des personnes en fauteuil dans les autres villes.
Oui, et puis je pense qu'il faut dire aussi qu'à Paris, même si ça peut m'arriver de critiquer beaucoup la ville, on a quand même des moyens qui permettent des moyens de transport assez efficaces. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que dans une petite ville ou une ville moyenne, ça va être plus compliqué... Donc, c'est vrai que Paris, on est quand même un peu privilégié quand on est en fauteuil parce qu'on a quand même des moyens de disposition pour contourner les galères de la vie. Quoi.
Alors ça, c'est pas mal de le dire. Chloé.
Effectivement, j'ai lu un article sur le Guardian qui classait un peu certaines capitales d'Europe et du monde. Paris est vraiment dans les pires.
Les pires, d'accord.
Voilà.
Les pires.
Et la meilleure...
On parle des capitales. Hein.
Oui, on parle des capitales. Si tu as des expériences dans d'autres villes en France, ça serait intéressant
on
que tu
en
racontes.
On en parlera
un
peu après. Ouais.
Sur les capitales, effectivement, Paris n'est pas bien classé parce que, du coup, très peu de stations de métro accessibles. Mmh. Hein. On est d'accord que pour les non-parisiens, il y a 14 lignes de métro. Seule une a des stations accessibles, qui c'est donc une dizaine de stations. Et la ville qui était mise en avant dans l'article, c'était Barcelone, où il y a seulement une vingtaine de stations qui ne sont pas accessibles. Tout le reste est accessible à des fauteuils roulants.
Barcelone, une ville qui n'est pas forcément très récente pourtant.
Oui, c'est pas la ville que j'ai visitée qui m'a le plus impressionné niveau accessibilité. Mais par contre, Berlin, très très bien.
Ah. Voilà,
très bien Berlin.
Notamment, est-ce qu'on est étonné en même temps?
Parce que y a des grands espaces, c'est génial. Mm. Bon, après, je crois que le métro n'est pas accessible non plus, mais franchement...
Mais en tant que touriste, c'est cool.
En tant que touriste, c'est cool.
Alors, tu parlais de l'étroitesse des trottoirs à Paris. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser les pistes cyclables avec ton fauteuil électrique?
Évidemment.
Ah
évidemment.
Donc, ça a pu être une amélioration dans ta vie, ce développement des pistes cyclables.
Mais, sauf que bon, les pistes cyclables à Paris, voilà, c'est pas ouf, ouf, quoi.
Ouais. Mais déjà pour les vélos,
voilà,
pour les fauteuils,
voilà.
Ouais.
C'est, par exemple,
elles ont le mérite d'exister. Hein.
Voilà, je parlais de Berlin, là on est sur des pistes cyclables de qualité.
Ah
quoi.
Ouais,
voilà.
Ah ouais, ouais.
Parce que le problème des pistes cyclables, ouais, c'est que souvent c'est des pavés en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc c'est pas fait pour que des roues puissent. En fait, ce qui est bien dans une piste cyclable, c'est que c'est goudronné en général et que du coup tu peux aller à fond.
Oui.
Tu veux dire qu'on pourrait s'unir entre vélo et personne en fauteuil pour réclamer de la piste cyclable lisse et large. Et,
J'ai repris l'avenue des Champs-Élysées ce week-end et le rond-point de l'Étoile, cyclable, entre guillemets.
Oui.
Mes fesses s'en souviennent encore. C'est terrible. Vraiment, zéro plaisir. On va marquer une courte pause et passer aux recommandations de la semaine. Ça sera juste après un petit jingle. Alors, Chloé, on va parler un tout petit peu recommandations aujourd'hui. Tu avais une petite reco à nous donner.
Oui, une petite reco mobilité. J'ai eu la chance de voir le film Bonne Conduite hier, qui sort bientôt au cinéma le 29 mars, je crois.
Un film français.
Un film français de Jonathan Barré. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le réalisateur... historique du Palmachot.
Ah ouais.
Et donc, il a réalisé plusieurs longs-métrages. Et là, c'est le dernier en date qui s'appelle Bonne Conduite. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est pour Commute, Bonne
mais
Conduite.
Évidemment.
Le film est génial. J'ai vraiment beaucoup ri. Et je dis pas ça parce que j'étais invitée à l'avant-première. C'était vraiment un rire très naturel. Et je me suis éclatée pendant une heure et demie. Le pitch est très simple. Vous suivez une instructrice, vous savez, pour récupérer les points quand on a perdu ses points.
Ah.
Qui, du coup... est psychologue dans ces centres-là le jour et la nuit, et serial killeuse de chauffards.
Ah ouais.
Et donc, moi, j'étais extrêmement heureuse parce que c'est mon rêve de tuer les chauffards. Et donc, le film est génial. Bien sûr, il y a David Marseille et Greg Ludic qui jouent des flics absolument extraordinaires et que du beau monde, génial, quoi. Allez-y.
Très bien. Eh bien, écoute, Bonne Conduite. Ça sort... C'est sorti mercredi ou ça sort mercredi
prochain ? Ça sort dans quelques jours.
Très bien, dans quelques jours. Voilà, recommandation de Chloé. Bah, tu vois, puisqu'on y va dans les ciné-séries, moi, je recommande une série sur Amazon Prime qui s'appelle Clarkson Farm. Saison 2 est sortie. C'est Jeremy Clarkson, le célèbre ancien animateur de Top Gear de la BBC, qui se lance dans l'agriculture en Angleterre. Donc, il a acheté tout un domaine et fait ça. Il connaît visiblement Jeremy Clarkson, donc il sait que ça va être forcément une catastrophe. Et dans cette saison 2, il est confronté à énormément de problèmes de voisinage liés à la mobilité. Pourquoi ? Parce qu'il... à une petite échoppe où il vend les produits de sa ferme. Évidemment, comme c'est une personne extrêmement populaire, dans le petit village qui avoisine sa ferme, beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup de voitures arrivent. Elles se stationnent n'importe où. Elles dégradent le paysage et l'environnement. Les riverains n'en peuvent plus d'entendre passer des voitures, de voir ces voitures stationnées. Ça gêne absolument tout le monde dans le village. Et du coup, ils rentrent vraiment dans une guerre de voisinage avec la communauté et les pouvoirs politiques en place, assez intense. Et il veut ouvrir un resto. Ils vont tout faire pour l'en empêcher, pour ne pas qu'il puisse ouvrir un resto et pour ne pas qu'il vende les produits quotidiens. Et ce qui est très étrange, c'est que en fait, tous les problèmes liés justement à l'afflux de personnes dans ce village qui dérange les riverains sont ultra gênants pour les personnes qui ont des fermes avoisinantes, parce que lui, son idée, c'est d'utiliser tous les produits des fermes avoisinantes pour alimenter son restaurant et du coup vendre les produits directement pour éviter que tout le monde se fasse littéralement savater, par les grands distributeurs qui n'achètent quasiment rien les produits et les produits de la ferme. Donc, il voulait faire vraiment du direct au direct. L'idée était très bonne. Mais c'est là où tu vois que tu peux très vite rentrer, même en Angleterre, et c'est encore pire depuis le Brexit, dans des conflits énorme lié tout simplement à la volonté d'être tranquille dans le voisinage. Et tout ça dû à cause de trafic, et souvent de trafic auto et de manque d'aménagement.
Toujours.
Et de fait qu'on ne peut pas aménager certains environnements aux voitures parce que vous dégradez la beauté naturelle des paysages, souvent des campagnes. Il y a des lois pour ça, etc. Donc en fait, il y a pas mal de choses liées à la mobilité dans cette truc, en plus des engins de mobilité évidemment agricole. Il faudra peut-être en faire un sujet parce que c'est passionnant aussi, tellement c'est craqué. On va entamer la deuxième partie de cet épisode, toujours consacré à mobilité et handicap. On est en compagnie de Hugo, qui est en fauteuil et qui nous explique un tout petit peu eh bien, ce qu'il traverse au quotidien. Et on va progressivement s'éloigner un peu de Paris, puisque toi, tu es originaire du Havre. Et on va parler un peu de comment est-ce qu'on se déplace et qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on doit prévoir lorsqu'on se déplace dans une ville qui n'est pas celle où on vit actuellement. Et ensuite, on commencera à parler un tout petit peu des autres villes de France. Est-ce mieux, est-ce moins bien que Paris ? Tu nous disais que Paris, c'est pas si pire, mais on va voir comparé à d'autres villes. Donc toi, quand tu veux retourner au Havre, comment tu fais et comment tu dois t'y prendre exactement ?
Ah, déjà, je prends mon billet de train sur la magnifique application SNCF Collect.
On les embrasse.
On les embrasse, voilà.
On les embrasse.
Première épreuve.
Application très ergonomique, s'il en faut. Ensuite, du coup, il faut aller sur le site, non pas SNCF, mais SNCF Nomade, parce que, du coup, je sais pas pourquoi, mais il y a eu un prestataire privé, je sais pas quoi, enfin, c'est pas le site de la SNCF de base. Et sur le site de la SNCF Nomade, il y a un onglet accessibilité où en fait tu remplis un formulaire que tu dois remplir 48 heures à l'avance.
Ah ouais.
Pour pouvoir réserver ton trajet. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que pour les trajets SNCF classiques, donc TGV, c'est passé à 24 heures, mais on ne sait pas pourquoi en Normandie, c'est resté à 48 heures.
Ah donc sur un coup de tête, tu ne peux pas partir au Havre, quoi.
Voilà, je ne peux pas partir sur un coup de tête au Havre.
Mais nulle part d'ailleurs en France, dès que tu veux prendre un TGV ou même un Transilien.
Surtout les TGV.
Surtout les TGV, d'accord.
Surtout les TGV, parce qu'en fait, tu as tout un système d'ascenseurs. En fait, c'est un truc qui est un peu plus long pour les TER classiques.
Ouais.
Donc, du coup, ils vont te dire si tu n'as pas réservé, on ne prend pas, quoi.
Mais oui, alors concrètement, parce que moi, les TGV que je prends, il y a toujours une marche. Alors, c'est à hauteur de quai, mais quand tu rentres dans le wagon, tu as une marche pour aller en bas, par exemple, les TGV à double étage, et tu as les escaliers pour monter à l'étage.
Alors, moi, je n'ai pas pris beaucoup de TGV, mais par exemple, j'ai été régulièrement à Toulouse, donc j'ai pris le TGV Paris-Toulouse.
Ouais.
Et en fait, tu as un système d'ascenseur interne au TGV où en fait, la plateforme descend au niveau de la marche.
Okay.
Et donc, c'est pour ça qu'ils vont te dire que ça prend un peu plus de temps et qu'il faut programmer, etc. Après, ils ont toujours une bonne raison pour te rendre la vie plus difficile.
Donc, TGV le plus compliqué, peut-être.
Ouais, un peu plus compliqué. Bon, après, ça reste des trains assez modernes, donc j'ai pas fait les petites gares où les trains sont un peu plus anciens, mais... Je sais que par exemple, la ligne de train du Havre a été changée récemment, mais pendant longtemps, ça a été des trains très vétustes.
Mmh.
Et donc, en fait, la place des personnes handicapées dans ces trains, c'était à côté des toilettes.
Oui.
Ce qui était très dérangeant, parce que pour le coup, ça sentait vraiment mauvais. Et donc, pendant 2h30, tu sentais l'urine des passagers.
Et est-ce que tu sais combien il y a de, par exemple, dans ces anciens trains, combien il y a de places réservées aux fauteuils ? Est-ce que c'est comme les vélos où,
Dans les vieux trains qui partaient du Havre, tu avais une place de...
Une place ?
Voilà, donc il fallait pas qu'il y ait beaucoup d'handicapés.
Une place, quoi.
Non, c'est ridicule.
C'est ce qui est assez hallucinant, et d'ailleurs, c'est un peu la problématique aussi des bus. C'est-à-dire que certes, il y a des espaces pour les personnes handicapées.
Ah oui, s'il y a déjà quelqu'un.
Mais si, en fait, des fois, t'as l'audace d'être deux handicapés.
Oh là là.
Le chauffeur peut te dire, non, moi, j'en accepte qu'un. Parce que sinon, vous prenez trop de place.
Chose qui t'est déjà arrivée ?
Chose qui m'est déjà arrivée, oui.
Ah ouais.
Qui arrive assez régulièrement. Voilà.
Oui, donc dans les vieux trains, une place. Et maintenant, de ce que tu as vu des trains un peu plus nouveaux, est-ce qu'il y a une amélioration là-dessus ?
Oui, alors dans les nouveaux trains là, pour aller au Havre, je crois que tu as deux espaces pour les personnes handicapées. Donc je pense que, en gros, tu peux avoir 3-4 fauteuils dans un train. Donc c'est déjà pas mal. On espère toujours plus, mais franchement, si on est honnête, c'est très correct.
Alors je note leur accessibilité vélo aussi, hein, les oui. nouveaux trains. Franchement, il y a des places pour les vélos partout. Là où dans les TGV, tu as deux places
oui,
par...
Oui, et surtout, l'une des problématiques, c'était que souvent, les places pour les vélos étaient au même endroit que les places pour les...
handicapés, exactement.
Et voilà, du coup, c'était un peu la bataille, parce que bah, il est arrivé qu'on prenne beaucoup de places, nous, avec
ouais.
les fauteuils.
Ouais.
Et que les cyclistes ronchaient un peu parce que du coup ils pouvaient pas poser leur vélo.
Oh bah les pauvres.
Voilà, donc c'était un peu la petite guéguerre entre les cyclistes et les personnes handicapées.
Bah excusez-nous, hein. Mais bon, voilà. Franchement, ça m'est déjà arrivé de pas avoir de place de vélo, faut que je le garde à côté de
bah,
moi, je m'assois
quoi.
Dessus
fais,
puis c'est
oui,
tout.
Bah,
après je me suis jamais fait disputer, mais tu sentais que bon,
oui, bah...
ça les saoulait un peu quoi. Ce que je peux comprendre aussi quoi, c'est qu'à un moment donné on peut avoir les deux quoi.
Ouais. Donc ça veut dire que tu réserves 48 heures à l'avance et quand tu arrives, il y a du personnel qui est là pour t'attendre ou c'est toi de soliciter les gens en disant « j'ai réservé, venez m'aider ».
Oh oui, en fait, il y a une sorte de comptoir réservé aux personnes handicapées et du coup, tu vas les voir et ils regardent si tu as réservé parce que bon, moi, pour être totalement honnête, je le réserve quasiment jamais. Je me pointe un peu par esprit de contradiction parce que j'ai envie un peu de
les faire bouger, les challenger.
Non, mais de les habituer au fait que bah, en fait, nos vies sont pas,
ouais.
sont pas toujours coordonnées. En ouais. fait. Et que moi, des fois, bah, je peux pas réserver 48 heures avant, ce qui est vrai.
Totalement vrai.
Il y a des fois où je peux et j'ai pas envie de le faire. Mais. Ouais, il y a des fois où je peux pas et du coup je me pointe et je croise les doigts. Donc,
Ah, donc ça veut dire que ça t'est arrivé qu'ils te refusent l'entrée au
ah
train.
Oui, bah, moi une fois j'ai failli pas en venir en bas parce que mon état ne me le permet pas. Mais disons qu'il y a un mec de la SNCF et en plus pour le coup j'avais réservé qui m'a refusé pour 25 minutes au lieu de 30 minutes
ah,
en avance.
Ah oui, il faut arriver 30 minutes en avance.
Voilà, il faut arriver 30 minutes en avance. Donc une fois je suis arrivé, j'ai eu l'audace d'arriver 25 minutes en avance.
Et on t'a refusé.
Et on m'a dit non, là ça va être trop short. En sachant que franchement pour rentrer dans un train c'est 5 minutes ou 3 heures. C'est pas tout un système trop compliqué.
Et puis tout le temps que tu perds à discuter avec lui, c'est
voilà,
le temps perdu en plus, tu vois.
Donc non, le problème des nerfs c'est que bah, en fait tu tombes des fois sur des gens qui sont un peu trop...
Qui les appliquent bêtement.
Voilà. Quoi. Fermé d'esprit, on va dire.
Excuse-moi, mais 30 minutes en avance, les trains sont à quai. Comment tu fais quand c'est une gare de passage ?
Alors, j'avoue que ça m'est jamais arrivé pour le coup. Ouais. Je suis toujours parti de gare terminus.
Ok.
Mais c'est vrai que, bah, par exemple, je crois qu'il m'est arrivé une fois de descendre à Rouen. Bah, là, t'as intérêt à ce que les mecs de la SNCF
soient réactifs.
Après, j'imagine que dans leur procédure, le chauffeur de train est peut-être mis au courant de rester un peu plus longtemps. Ok, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un mec qui a voulu descendre à Rouen et qui est arrivé au WAF, quoi. Donc, parce que ça aussi, ça m'est arrivé récemment. Il y a eu. J'ai pris un train très tard une fois et il y a eu un accident sur la voie.
Ok.
Donc mon train, au lieu d'arriver à 23h, est arrivé à 1h30. Donc c'était très long. Mais en fait, ce qui était compliqué surtout, c'est que moi, pour rentrer chez mes parents, il y a un tramway au Havre qui me permet de rentrer de manière autonome chez mes parents. Et en fait...
À 1h, il n'y en a plus.
À 1h30 au Havre, il n'y en a plus, quoi.
À Paris non plus.
Voilà. Enfin, à Paris, il y a un peu plus. Il y a des noctiliens.
Ah oui, c'est vrai, il y a les noctiliens.
Il y a des noctiliens. Ouais, bon, la vie est finie. Il a une Donc, le mec de la SNCF m'a dit vous inquiétez pas, vous avez prévu un taxi adapté et tout. Moi, connaissant la SNCF, je savais que ça ne serait pas le cas. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé, ils m'ont admis un taxi normal, quoi. Et donc, mon fauteuil, il rentre pas dans le taxi.
Ouais.
Donc, comment je fais ? Et donc, du coup, j'ai dû laisser mon fauteuil électrique à la gare. Et c'est mes parents qui sont venus me chercher avec mon fauteuil manuel. Voilà.
Et alors, j'ai lu en préparant un peu l'émission que l'accompagnement SNCF se fait sur des horaires donnés. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je crois que c'est entre 8h et 20h. Ça veut dire que tu peux pas prendre un train après 20h ?
Ça, non, je crois plus que c'est le cas.
Par
moi, ça m'est arrivé de prendre le train après 20h.
Okay.
Après, ça m'étonnerait pas que selon certaines régions, Voilà, faudrait pousser le truc un peu, mais je crois pas que ce soit le cas encore. Mais encore une fois, faut réserver à l'avance. Voilà.
Après, tu le soulignais, il y a quand même du personnel dans certaines gares qui sont arrangeants.
Ah oui, non, mais ça, faut pas jeter l'opprobre sur tout le personnel de SNCF. surtout à Saint-Lazare, qui sont très sympathiques. Je les salue,
c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est, voilà. C'est ma gare aussi.
Voilà, comme je les vois souvent, faut mieux pas qu'ils me prennent en grippe. mais c'est vrai que par exemple, par là, s'il m'est arrivé d'avoir plus de galères.
Ah,
ou...
ouais.
Voilà. Après, en fait, tout simplement, je pense que la force de l'habitude, comme c'est souvent les mêmes clients qui viennent, y a plus de... ils sont plus arrangeants, en fait. Donc moi, par exemple, j'ai un chien, ils connaissent mon chien, quand ils le voient, ils lui disent bonjour, ils sont contents de le voir et tout. Donc tout de suite, ça crée un peu plus de liens, tout de suite...
T'es connu, en fait, t'es une célébrité, à Saint-Laz.
Un peu, un peu.
T'es comme le croque-Michel.
Vous pouvez me voir tous les samedis du matin à Saint-Lazare.
Ah, voilà.
En dédicace.
En dédicace. Avec mon chien.
Et alors, est-ce que... Donc tu voyages seul la plupart du temps, par exemple, quand tu rentres au Havre? Et est-ce que ça a été quelque chose qui est un peu une étape importante de se dire, bon, bah là, je sais pas forcément ce qui m'attend à l'arrivée, admettons que tu ailles ailleurs qu'au Havre, j'y vais quand même tout seul parce que bah, je suis une grande personne et j'ai le droit de me déplacer tout seul. Est-ce que c'est des questions qui se posent?
Non, mais vraiment, c'est une étape très stressante.
Ouais.
Et pour le coup, bah, récemment, j'ai invité une amie qui était également en fauteuil chez moi à Paris, et donc elle devait prendre le train toute seule du Havre à Paris. Mmh. C'était la première fois qu'elle le faisait.
Ah ouais.
Elle avait 25 ans quand même. Et bon, je sentais que ça la mettait dans un état de stress.
Ça m'étonne pas.
Et c'est compréhensible en fait, parce que c'est beaucoup de trucs, beaucoup de charges mentales en fait à gérer. Alors qu'avec l'habitude, tu les gères, mais quand c'est les premières fois, moi je sais quand je suis arrivé sur Paris que je devais faire souvent l'aller-retour. Bah, le truc qui me stressait le plus, c'est de pas pouvoir rentrer dans le train, quoi.
Ouais.
Genre, les demi-heures à l'avance, je me disais, mais si j'arrive genre à 25 minutes ou 20 minutes, ils vont me dire non, je vais pas pouvoir rentrer chez mes parents, ça va me faire chier, etc.
Ouais, donc... En plus que là, tu dépends aussi d'autres moyens de mobilité, parce que pour te rendre à Saint-Laz, des fois, c'est pas si simple d'être à l'heure, quoi.
Oui, voilà, parce que là j'ai la chance d'habiter pas très loin de Saint-Lazare, donc du coup, j'arrive relativement à l'heure, et encore, je suis pas quelqu'un de très ponctuel, donc c'est un peu compliqué. Mais quand j'habitais à Montparnasse, j'étais en transpi quand je rentre au Havre, quoi. Parce que si le bus, il y avait trop de... Parce que c'est aussi le problème du bus, c'est que t'es tributaire de la circulation.
Tout à fait.
Contrairement au métro, où bah, globalement, j'ai jamais pris le métro, mais j'imagine que...
À part quelques incidents, c'est relativement... ça roule. Hein.
Ça roule, quoi.
On va parler un peu du coup des autres villes. Donc toi, t'as grandi, t'as vécu énormément au Havre, t'y retournes souvent. Tu dirais que le Havre est une ville plus adaptée à ta condition de fauteuil ou moins adaptée que Paris?
Je dirais que ça a changé récemment avec la mise en place du tramway.
Ah oui.
Parce que moi, je sais qu'avant ce tramway-là, en fait, pour descendre en ville, j'étais dépendant de mes parents parce que du coup...
C'est vallonné, le Havre, quand même.
Oui, c'est vallonné. En fait, moi, j'habite au-dessus du tunnel, pour ceux qui connaissent.
Excuse-nous.
Voilà.
Excuse-nous.
Et donc, en fait, pour descendre, t'es obligé d'avoir la voiture ou le tramway. Ouais. Mais quand il n'y avait pas le tramway, c'était la voiture. Et donc, en fait... Quand j'habitais au Havre, j'avais zéro autonomie, quoi. Quand je voulais prendre un café avec des potes, fallait que je demande à mes parents de me descendre
tout.
Donc en fait, ça a beaucoup d'impact sur ta vie sociale. Et ça change énormément de choses. Et d'ailleurs, si je fais une petite digression sur Paris, mais là récemment, il y avait une soirée dans le 20e arrondissement à Paris, avec des potes. J'ai pas pu y aller parce que le bus pour faire du 8e au 20e, c'est quasiment plus d'une heure de trajet, quoi. Donc, je me suis dit, pour aller boire une bière, c'est un petit peu excessif. Mmh. Alors qu'en métro, j'aurais mis peut-être une demi-heure, quoi.
Oui.
Donc, c'est aussi ça qui joue énormément les temps de trajet et l'autonomie, en fait.
Et tu fais bien de le dire, le tramway, c'est vraiment une excellente solution. Souvent, ça arrive à quai pile poil droit. Ouais. C'est un peu comme des gros bus sur rail, donc tu as les espaces prévus pour accéder. C'est une bonne solution. D'ailleurs, promettez beaucoup de tramways là, pour 2024, justement. C'est ça qu'ils voulaient développer et étendre les lignes de tramway. Je les ai toujours pas vues, moi, perso.
Moi non plus, mais presque. Peut-être que Anne Hidalgo en cache dans sa manche.
Je ne sais pas. Moi, j'ai reçu un mail dans ma boîte aux lettres. De 2024, ils sont passés à 2030 pour mon tramway à Colombes.
Ah.
Ça fait quand même un grand écart. Gap, Tu penses qu'on sera encore... Ils seront encore là, les JO, en 2030 ou pas?
Ils vont les faire durer très longtemps.
Je connais ce rire de Chloé. C'est difficile, hein.
Moi, j'adore le tram. Donc, c'est vrai que...
Moi aussi, j'aime beaucoup le tram.
En plus, j'ai la chance d'habiter à côté d'une station de tram à Paris. Et justement, est-ce que toi, tu as eu l'occasion dans d'autres villes? Parce que je connais très bien Le Havre et Saint-Etienne. Et Saint-Etienne a aussi énormément de trams. Je trouve que... J'ai toujours été habitée aux villes à tram et je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus partout.
C'est vrai. Moi, j'ai une ville qui m'a beaucoup surpris. Alors après, je suis pas un grand fan de cette ville, mais Toulouse.
Ouais. Toulouse.
Toulouse, le métro est accessible.
Ok.
Voilà, on n'a pas du métro.
C'est vrai.
Voilà, le métro, t'as un ascenseur, t'arrives à quai, tu te déplaces en autonomie complète. Donc non, c'est vraiment très bien fait, Toulouse, au niveau de l'accessibilité.
D'autres villes, peut-être, qui t'ont surprise.
Ton top
3
des meilleurs.
Nantes, pas mal.
Nantes, ouais.
Pas mal. J'ai pas fait d'autres villes en Bretagne, mais j'ai eu quelques mauvais souvenirs en termes d'accessibilité. Parce que c'est souvent des gros pavés.
À Rennes, par exemple.
Ouais, Rennes, etc. Enfin, ça, j'ai fait ça plus jeune, donc peut-être que ça a évolué depuis, mais c'est vrai que j'ai pas de bons souvenirs en Bretagne en général.
Mais là, en fait, c'est un truc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'envisageais pas. Je me dis, mais regarde, ils ont des lignes de métro avec des ascenseurs tout neufs, donc justement, ça doit être pratique. Mais en fait, le problème, c'est ne serait-ce que se rendre au métro, si toutes les rues sont pavées, s'il y a des travaux quasiment tout le temps, là, ça devient un véritable problématique. Et en fait, même si le métro est adapté, bah super, il est adapté, mais y aller, c'est une galère, c'est pas agréable, tu risques de crever en plus le fauteuil. Oui. Donc, c'est des choses auxquelles j'avais jamais envisagé, mais c'est vrai que c'est ce qui peut rendre les villes pas si agréable à vivre que ça. Hein.
Après, on a la chance qu'il y ait pas mal de gens qui ont quand même bossé au niveau des accessoires pour les fauteuils qui permettent, notamment, il y a ce qu'on appelle la free wheel. Donc là, par exemple, mon amie qui est venue à Paris, elle avait ça.
Ouais.
C'est une roue qui, en fait, se fixe juste au niveau du cale-pied du fauteuil.
Ouais.
Et ça permet, en fait, de soulever les petites roues qui sont devant, en fait, parce que, grosso modo, les pavés, ce qui bloque souvent, c'est les roues de devant.
Ouais, qui se mettent dedans, c'est
qui
ça
qui se mettent dans les interstices. Mmh. Mais en fait, la free wheel permet de soulever ces petites roues et, en fait, tu passes les pavés, je dirais, presque sans effort.
Ah ouais.
Donc ça, c'est des petites choses qui ont amélioré un peu le...
La technologie au service,
voilà, c'est ça,
des personnes handicapées.
On fait de la tech pour pallier les soucis d'aménagement. Après, bon, les pavés, c'est des choses qui ont été installées souvent il y a très 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 longtemps. Mais vous seriez pour, vous, qui retire les pavés des villes? Parce que ça a son charme, hein. je sais que ça a son
Après,
charme.
C'est toujours une question de coût, hein, comme on discutait. Je crois que tout
non, mais
est
vas-y,
question
il n'y a pas de coût. Une ville sans pavés, tu dis oui ou tu dis non?
Ah bah moi je suis à vélo, donc je dis oui, évidemment.
Ouais,
je dis oui, mais je suis à roue, donc... mais moi, je sais que
mais moi je dis oui aussi, hein.
J'avais ce débat avec une amie qui me disait, ouais, mais une ville bétonnée, quand même.
Ouais, c'est moins charmant.
C'est moins beau. Et c'est vrai, je peux pas le nier. Montmartre avec les pavés, c'est quand même quelque chose. Quoi.
Bah ouais, c'est chouette. Visuellement, c'est chouette.
Bétonné, bof, quoi.
Si tu goudronnes tout Montmartre, bon, je comprends que ça puisse être problématique. C'est un débat qu'il faut avoir.
Mais je profite de faire une petite aparté sur l'aménagement, on disait pour justement les personnes à mobilité réduite, mais les personnes à mobilité réduite, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas que les personnes en fauteuil.
Et
dans la définition des personnes à mobilité réduite, il y a les gens juste, par exemple, les poussettes, quand tu as beaucoup de bagages, les personnes seniors qui ont du mal à se déplacer, qui peuvent avoir des déambulateurs, des choses comme ça. Donc, je trouve que de se dire qu'en fait, ces aménagements coûtent cher, oui, mais c'est pour une grande partie de la population, finalement. On va tous vieillir, on va tous avoir du mal à se déplacer, on va peut-être tous avoir la chance d'avoir des enfants avec des poussettes. Donc, à un moment donné, il faut aussi réfléchir global.
C'est ce que je dis toujours, c'est que c'est pas que nous, en fait.
Exactement.
C'est souvent quand on dit oui, nous, on veut le métro accessible, on a l'impression d'être des méchants militants qui voulons niquer la vie des Parisiens, mais pas du tout, en fait. La majorité des gens qui ont besoin de ces accès-là sont pas forcément en fauteuil. Ça peut être tout simplement une personne qui a du mal à marcher, ça peut être une personne âgée, comme tu le dis, les poussettes, etc. Enfin, moi, par exemple, il y a un truc qui me choque toujours, c'est au niveau des bus. Donc moi, ils mettent la rampe en action,
ouais.
Mais quand ils voient une femme avec une poussette...
Ouais, par contre,
elle a un peu soulevé sa poussette sans difficulté. Moi, je trouve ça fou, alors qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et d'attendre 2-3 minutes que la rampe soit en place.
Ouais.
En fait, les gens n'ont pas le temps. C'est ça qui est fou, c'est que moi, souvent, les problèmes que j'ai au quotidien dans le bus, c'est souvent les personnes âgées, souvent, qui, en fait, n'ont pas 2 minutes pour attendre que la porte s'ouvre,
qui gueulent après
le chauffeur parce que ça prend du temps à s'ouvrir, etc. C'est des problématiques qui sont quotidiennes, ça.
Moi, là où ça m'a frappé, et du coup, bravo Saint-Lazare, mais pas bravo Montparnasse, puisque quand on vient de n'importe quel métro pour aller à Montparnasse, je pense qu'il y a une dizaine d'escaliers avant d'accéder
brut,
à la gare.
Brut, ouais.
Et ça, pas je ne comprends pas que ça n'ait pas été réfléchi dans une gare aussi importante que Montparnasse. Je peux comprendre sur des petites lignes ou des petits arrêts de te dire, bon, bah, c'est pas grave, faudra aller au suivant. Mais sur une gare, moi, même quand j'ai deux valises, enfin, ou même. J'ai toujours aidé les gens à monter les valises parce que quand t'as 10 escaliers d'affilée et que bah, t'as les deux mains prises ou que c'est une personne âgée qui a du mal à se déplacer donc elle peut pas soulever sa valise en même temps que monter les escaliers, je comprends pas.
À la Défense par exemple, sur tout le sol de la Défense, tu peux te déplacer partout, en poussette, en fauteuil, il y a des rampes absolument partout, tu descends dans le métro, c'est fini. C'est fini.
Oui, donc y a
c'est
un
terminé,
donné,
c'est escalier partout, escalator partout, ouais. Il n'y a pas de solution.
C'est fou.
Tu es mort. Donc, c'est vraiment, vraiment assez terrible.
Donc, voilà. Donc, pensons plutôt à une solution globale, que ça améliorerait ces aménagements. 100% des gens pourraient en bénéficier, en final. Et donc, oui, c'est de l'argent, mais si ça peut améliorer la vie de tout le monde...
Je pense que ça a un impact aussi sur la visibilité des personnes handicapées. C'est-à-dire que plus on va rendre accessible la société, en fait, plus on va nous voir dans notre quotidien. Moi, ce qui m'a toujours choqué, là, récemment, on a eu un stagiaire à mon boulot, donc 25 ans quand même, et il m'a dit « t'es la première personne en fauteuil avec qui je parle ».
Ah ouais.
Et donc, je trouve que c'est...
Pourtant,
c'est...
t'es dans la fonction publique, hein, et... qui sont assez réputés pour, justement, oui. Accueillir
oui,
et respecter, du coup, les...
Les quotas, oui.
Les quotas, ouais. Oui. Exactement.
Et donc, c'est fou, en fait, de s'entendre dire ça d'un mec de 25 ans, quoi. Que t'es la première personne en fauteuil avec qui il a parlé, quoi. Et moi, je trouve ça toujours hallucinant. Et en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas accès aux espaces, en fait.
Ouais. Mmh.
Et encore, moi, j'ai la chance de connaître un peu pareil, de savoir à peu près où sortir pour... Mmh.
Sociabiliser.
Pour sociabiliser. Mais, par exemple, moi, à Paris, je ne peux pas sortir dans un bar que je ne connais pas trop parce que je ne sais pas si je peux aller aux toilettes.
Exactement.
Les toilettes, c'est hyper important. Ouais, ça peut paraître bête, mais tu prends une bière. Si au bout d'une bière, t'as envie d'uriner, ça te gâche la soirée.
Ah
en fait.
Ouais, de ouf.
Ça te gâche la soirée et les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand tu vas dans un bar que tu connais pas avec le mec, tu dis, bah non, bah les toilettes, faut
descendre l'escalier.
Descendre l'escalier, que c'est dans la cave. Bah là, tu sais que tu vas passer une soirée pourrie. Tu sais qu'en plus, du coup, tu consommes moins.
Oui.
Si on est dans une logique capitaliste.
Bah bien sûr.
viens, voilà. Bien vu.
Du coup, tu consommes qu'une pinte au lieu de deux.
Ouais.
Puis tu te concentres sur ta vessie toute la soirée, quoi. Tu profites pas de la soirée.
Là-dessus, est-ce qu'il y a des outils, des applis, des trucs comme ça qui recensent un peu tous les lieux faciles d'accès pour les personnes handicapées ?
Alors là, il y a un site dont j'ai plus le nom, mais en fait c'est un site communautaire où grosso modo c'est une sorte de TripAdvisor pour les personnes en fauteuil. Et donc en gros, quand tu vas visiter un lieu, tu peux laisser un avis critique sur l'accessibilité et tout.
Ok.
Mais c'est vraiment au bon vouloir de chacun, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est une sorte de sens critique, mais bon, pour l'accessibilité, donc c'est bien, mais c'est pas parfait non plus.
Donc là, lançons l'appel pour tous les bars, Paris et de France, sur vos fiches Google, mettez qu'il y a un accès toilette ou des choses comme ça. Comme ça, vous allez avoir plein de clients en plus qui vont consommer des tonnes de bières, comme Hugo. Et voilà.
C'est ça. récemment, j'ai été pour la finale de la Coupe du Monde, je m'étais inscrit à une soirée à la Boule-Loire. Donc, il y avait le match diffusé et après, il y avait un setup de DJ et tout. Donc, j'étais hyper chaud.
Mm.
Et donc, j'arrive à la Boule-Loire et à la Boule-Loire, ils me disent... Et eh ben non, c'est dans une cave, donc pas d'accès.
Oh là là.
Sauf que moi, quand j'ai réservé ma place sur le site, il n'y avait pas marqué que c'était adapté. Donc du coup, j'ai perdu 15 euros dans l'histoire, mais surtout, ça m'a gâché ma finale de Coupe du Monde. Donc oui, si vous pouvez au moins avoir la décence de tenir informé les gens de si c'est accessible ou pas, ce serait déjà pas mal.
L'appel est lancé.
Le mieux, ça serait de le rendre tout accessible, évidemment, oui. Mais...
Il y a des lieux pour toi qui sont vraiment réputés pour être ok. Cinéma, grande surface, musée.
Les grandes surfaces et les musées en général.
Grande surface et musée.
Mais par exemple, les cinés, c'est affolant.
Ah ouais.
Moi, déjà, quand j'habitais Montparnasse, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de cinés regroupés. Et en fait, je devais choisir mon film à l'avance et contacter le cinéma pour savoir si la salle était adaptée ou pas. Est-ce que toutes les salles n'étaient pas adaptées ?
Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire que si ils en ont une qui est adaptée, ils vont pouvoir dire oui, on peut accueillir des gens, mais sauf que si c'est pas ton film, c'est de la publicité
t'es
mensongère.
T'es en haut du coup au cinéma ?
Non, des fois t'es au premier rang. Donc
au premier rang.
Donc ça peut être relou aussi.
Ah ouais.
Surtout si tu peux avoir du mal, ne serait-ce à incliner la tête, des fois c'est chiant.
C'est ça. Et moi, par exemple, j'avais une carte Gaumont Duo, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oh, excusez-nous.
Voilà. Et quand j'ai déménagé dans le 8ème, donc je me suis dit, bah, je vais garder ma carte.
Ouais.
Et je suis arrivé donc dans le Gaumont des Champs-Élysées, qui est quand même pas le Gaumont.
Ah, j'avoue, c'est
aucune
c'est
salle accessible.
Aucune.
Aucune, zéro. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Aux Champs-Élysées.
Je me dis, c'est pas grave, il y a l'UGC en face.
Ouais.
Donc je vais aller à l'UGC.
Vas-y, let's go.
Pareil.
Allez.
Donc.
La tête de Chloé, vous le voyez pas en podcast, mais c'est à mourir de rire.
Donc, je lève les yeux. Aller à Place de Clichy et à Opéra quand je vais aller au cinéma.
Ouais, ils sont
et encore une fois, toutes les salles ne sont pas accessibles, donc il faut qu'on filme que je veux voir. Il y a le petit sigle avec le...
Pâté Beaugrenel, hein, ouais. Si t'as l'occasion de faire, incroyable.
Oui, il paraît que c'est incroyable, mais il paraît que c'est très cher aussi, donc...
C'est très cher, oui, mais par contre c'est incroyable.
Mais on m'a dit que c'était la plus belle salle de Paris, donc faudrait
franchement,
que...
c'est vraiment trop bien, et elle est accessible, je peux te l'assurer.
Ah, j'espère, à ce
prix-là. J'avoue, par contre, ton popcorn est à 8 balles. Mais ça, c'est autre chose. Très bien, on a fait un peu le tour des villes de France, on va s'envoler un tout petit peu dans les autres villes du monde dans quelques instants, mais avant, eh bien, l'occasion de faire une petite news, justement pour marquer le temps mort dans cet épisode de Commute qui commence à durer un peu, mais très intéressant.
Ouais, on n'a pas envie d'arrêter.
Vraiment très bien. News, tu voulais nous parler peut-être de quelque chose, Chloé, que tu as sur le cœur.
Que j'ai sur le cœur, oui ou pas, mais tu parlais tout à l'heure, Hugo, de l'application Citymapper. Eh ben, ça vient de tomber qu'elle va être rachetée par Via.
Ah, c'est qui, Via ?
Via, c'est... Alors, je ne sais plus ce que c'est, mais en gros, voilà, Citymapper, en fait, ne peut pas, apparemment, n'a jamais trouvé son modèle économique pour être rentable.
Ça, c'est
donc,
génial,
du coup,
mais
être, voilà.
C'est...
Donc, malheureusement, je ne sais pas ce que va devenir Citymapper. Et c'est bien dommage, parce que moi, je m'en sers énormément pour mes trajets à Paris, comme en France, comme dans toutes
des
les...
Des meilleures apps en Europe, en tout cas.
Ouais,
moi,
mais même à l'étranger. Hein,
clairement, voilà. Incroyable.
Voilà. Donc, je suis désolée.
Bravo, mec de Citymapper. C'est un peu triste que ça soit...
Peut-être qu'ils vont utiliser justement toute la tech de Citymapper pour améliorer d'autres applis, j'en sais rien.
Ils peuvent améliorer Map là, de chez Apple, là, parce que c'est vraiment tellement, tellement horrible cette appli.
Donc voilà, petite news triste un peu du jour, malheureusement.
Ouais, news triste, je déplore. Je déplore en effet. Petite news pour ma part aussi, puisqu'on parle un peu scandale dans le monde du cyclisme. Scandale à demi-mot, mais de plus en plus, hein, donc après les dramas sur le dopage, donc ça remonte à des années. Après les dramas sur les vélos qui visiblement pédalent tout seuls, ça aussi, ça commence à remonter à des années. Ce coup-ci, c'est tout simplement la technologie qui commence à poser problème. Alors là, pas de triche, mais juste du budget qui commence à exploser dans les grosses équipes qui ont du coup les moyens de s'offrir des vélos qui peuvent passer en soufflerie via des setups et des ingénieurs qui travaillent dans la F1, via des ingénieurs qui travaillent dans la mécanique des fluides très avancée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une différence qui commence à devenir très, très très notable dans les vélos des coureurs cyclistes. Tous les cyclistes le savent, tous les cyclistes disent « je le vois bien, le mec à côté de moi qui pédale moins et qui fait moins d'efforts dans le peloton, ça se voit parce que je vois son ordinateur de bord, je vois les puissances, je sais très bien que son vélo marche mieux que le mien, c'est tabou ». Puisque vous ne pouvez pas dire que votre vélo marche moins bien que celui d'à côté, étant donné que vous êtes sponsorisé hein, quand même par une marque, puisque chaque équipe a son manufacturier. Mais ça devient un facteur principal de décision des transferts et du mercato, du coup, en cyclisme, un peu comme le budget en foot est évidemment aussi très, très important. Chose que déplorent de plus en plus de personnes, à la fois les amateurs de cyclisme hein, qui veulent voir de la performance physique et pas forcément de la performance mécanique, puisqu'on se rapproche des problèmes de la F1, mais aussi tous ceux qui sont dans le milieu du vélo, parce que maintenant, bah, c'est plus trop l'écurie de cœur qui va compter pour eux, mais plus bah, quel vélo les équipes, en fait, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils auront moins de chances de gagner avec certains types de vélos. Je ne citerai pas de marque, évidemment, parce que vous voyez, tout ça est très tabou, mais voilà, juste pour vous dire que peut-être ça sera un des gros scandales, ou en tout cas un des gros débats qu'on aura sur le Tour de France cette année, à savoir, bah, est-ce que finalement, on ne devrait pas réglementer pour que le vélo ait moins d'importance, c'est-à-dire encore réguler encore plus, rendre les vélos de plus en plus identique, ce qui est un peu chiant hein, dans un peloton, mais qui serait plus juste. Ou alors est-ce que le vélo a une partie technologique et qu'il faut laisser maintenant aux décisions d'équipe, à l'ingénierie, à tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez ici, mais c'est un débat. Tu vois.
Tu regardes le Tour de France, Hugo ?
Un petit peu, ouais, mais je suis pas un spécialiste comme Yoann.
Un spécialiste non plus, mais.
Non, mais après, mon père regarde beaucoup la Formule 1 et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'au final, les pilotes, c'est important, mais je crois que le plus important, c'est surtout les voitures dans lesquelles ils roulent. Quoi.
En vrai, oui. En vrai, bah, évidemment, t'as pas la voiture qui gagne, tu
Donc,
peux pas gagner.
Je me dis que pour le vélo, ça va finir comme ça et puis bah, je sais pas si c'est bien ou pas, mais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est la question.
Ah, l'UCI réglemente énormément les choses normalement pour éviter ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que les règles ne sont pas totalement adaptées au monde moderne et surtout aux nouveaux matériaux utilisés dans le vélo. Mais moi, j'aime bien l'idée de la technologie est importante, mais quand je vois que ça fait vraiment des grosses différences...
Oui, quand ça fait du mal au sport, c'est dommage. Quoi.
Ouais, c'est ça. Je me dis que ce n'est pas très juste. Et ce que j'ai peur, c'est que ça pousse en fait au dopage. Parce que ceux qui n'ont pas le vélo se disent que bah, ils ont besoin de 20 watts de plus dans les jambes et sont peut-être poussés via leurs écuries à faire des choses mauvaises pour leur santé. Là, il y a pas mal de réglementations. Voilà. C'était ma news. On verra. On en reparlera peut-être avec Victor quand il sera de nouveau là sur comment ça se passe. Eh bien, on va continuer avec la dernière partie de cette émission et on va parler un tout petit peu, eh bien, handicap et voyage. On va sortir de la France, on va voyager. Hugo, tu as une chance énorme, je trouve. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager. Donc, c'est vrai que j'ai vu pas mal de pays différents, donc c'est assez cool.
Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de bah, ce qu'il faut faire, un peu comme quand tu voyageais en France via le train, lorsque tu dois te déplacer dans un pays à l'étranger et que tu es en fauteuil ? Quel problème est-ce qu'il y a ? Quelles choses tu dois prévoir en avance ? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire en plus que les valides n'ont absolument pas à faire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus pratiques pour toi par rapport aux valides ?
Bah donc en fait, quand tu prends ton billet d'avion, tout simplement, tu précises que tu es en fauteuil.
Ouais.
Et donc là, normalement, la compagnie te donne un formulaire que tu dois remplir, donc dimension du fauteuil. Il faut savoir également que pour les fauteuils électriques, tous les fauteuils électriques ne peuvent pas prendre l'avion.
D'accord.
Parce que tout simplement, il y a des batteries en fait qui ne supportent pas le vol. Parce que c'est des batteries en lithium.
Ok.
Enfin, si je dis pas de bêtises. Hein,
ouais. Qui vont subir des problèmes de pression et de dépression.
Voilà, il y en a certaines en fait qui peuvent potentiellement exploser dans la soute. Donc, même si les gens nous aiment bien, je pense qu'ils ont envie de.
De vivre
en avion, oui.
Ils ont envie d'arriver à Bonpeur, donc ça je peux comprendre. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de batteries en fait qui permettent de prendre l'avion. Donc, par exemple, il y a. Mon fauteuil électrique, c'est la marque Invecker. Et en fait, tous les batteries sur les fauteuils Invecker sont...
Pensées pour l'avion.
Sont pensées pour l'avion. Mais c'est pas le cas de toutes les marques. Il faut faire très attention quand tu choisis ton fauteuil.
Est-ce qu'il y a un surcoût ?
Non, il n'y a pas de surcoût. Tout est pris en charge. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on ne m'a pas demandé de payer plus. Après, peut-être qu'il y a des compagnies qui facturent des surcoûts, mais je ne crois pas que ça soit possible.
Il y a une limite de place aussi pour les personnes à mobilité réduite dans les avions ?
Ça, j'avoue que je ne sais pas.
Jamais eu de problème ?
Jamais eu de problème. Après, je sais qu'il y a eu des problèmes avec la compagnie EasyJet il y a quelques années parce qu'ils refusaient les personnes handicapées qui voyageaient seules. C'était très problématique parce que bah, du coup, ça t'enlève toute autonomie. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, je pense que ça n'existe plus, mais ça ne m'étonnerait pas que certaines compagnies pratiquent un petit peu encore des usages un peu bizarres comme ça, de refuser pour tel ou tel motif l'embarquement. Ah bah oui, bah récemment, quand je suis rentré de Guadeloupe,
ouais.
Il y a 2 ans, je crois,
ouais.
J'avais pris l'avion à l'aller sans difficulté et okay. tout, donc sans certificat médical. Et pour mon retour en France, celui qui gérait l'embarquement a voulu me refuser l'embarquement parce que j'avais pas un certificat comme quoi j'étais apte à prendre l'avion au niveau de ma santé.
D'accord.
Donc j'ai dû batailler, mais c'est des choses en fait qui peuvent arriver. Certaines compagnies t'obligent à avoir un certificat médical pour pouvoir voyager sur leur ligne.
Très bien. Juste une question. Au moment où tu arrives à l'aéroport, est-ce que ton fauteuil est systématiquement pris comme un bagage et embarqué en soute comme un bagage ou on te laisse le fauteuil pour la totalité du trajet?
Non, on le prend comme un bagage, on le met en soute.
Ok. Donc on te donne un fauteuil de substitution pour faire tes déplacements dans le terminal?
Là en fait tu peux aller jusqu'à l'embarquement avec ton fauteuil.
Ok.
Et au moment de l'embarquement en fait ils prennent ton fauteuil, ils le mettent dans une espèce de caisse en métal et
très bien.
Ils le mettent en soute.
Mais d'accord. Alors si tu prends des trajets avec correspondance, j'imagine que c'est déjà arrivé, enfin peut'être pas toi mais que
oui, bah,
le fauteuil
moi,
soit perdu.
Ça m'est déjà arrivé donc il y a quelques années quand on a été au Brésil. J'avais 14-15 ans et en fait, ils avaient oublié mon fauteuil à Paris.
Oh
et quand je suis arrivé à Rio, j'avais plus de fauteuil. Et donc, ils m'avaient prêté un fauteuil quelques jours, mais le fauteuil a mis 4 ou 5 jours à arriver.
4 ou 5 jours ? En plus, t'as dû bouger de Rio, non ? Entre temps, même pas ?
Non, on a eu de la chance parce que je crois que les premiers jours, on restait sur Rio. Donc, en fait.
T'as dû retourner à l'aéroport ou ils te l'ont apporté ?
Ils l'ont apporté quand
okay,
même.
Ok, d'accord, ça va.
Ouais. Mais en plus, je crois qu'il l'avait abîmé. Enfin bref, ça avait été compliqué.
Oui, donc c'est pas si simple que ça. Au moins, le billet est au même prix, mais il y a quand même des...
Oui, non, de toute façon, il faut se dire que rien n'est simple.
Ok, il faut partir du principe que c'est
toujours
galère.
Rien n'est simple
quoi.
Quand t'es en fauteuil, mais après, il y a quand même eu des améliorations ces dernières années. Donc, bon...
Et alors, est-ce que t'as un souvenir d'une ville à l'étranger où là, t'as senti la différence par rapport à la France dans les aménagements ?
Bah, voilà, récemment, Berlin, j'ai vraiment été subjugué par la simplicité de l'urbanisme et le fait que t'es vraiment autonome, quoi. Je me suis dit, vraiment, je pourrais vivre dans cette ville seule sans difficulté, quoi.
Mmh.
Donc ça, vraiment, ça a été cool. Londres aussi.
Ah ouais ?
Londres.
Qui est pas mal. Qui est pas mal, notamment au niveau des transports, c'est pas si mal. Non,
les
bien.
Bus, hein, les bus sont bien.
Ouais, les bus sont bien et la ville est assez moderne, je trouve.
C'est vrai.
Au niveau de l'urbanisme, en tout cas, c'est pas la pire.
Bah, c'est une ville très aplatie, donc c'est un peu plus large.
Et donc, mon prochain objectif, ce serait de faire le pays d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada.
Ok.
Pour voir un petit peu justement.
T'es jamais allé aux États-Unis ?
J'y suis allé, mais très jeune, donc je pourrais pas. Je pourrais pas avoir un avis sur l'accessibilité, mais ce que je sais, ce que m'ont dit des camarades en fauteuil, ils m'ont dit que c'était quand même le pays le plus en avance en termes de...
Ah bah les trottoirs sont larges. Hein.
Voilà, et puis même en termes d'accessibilité des lieux publics, des bars, etc., ils m'ont dit que c'était fou. Alors apparemment, quand même, le métro à New York...
Le métro à New York, c'est mort, hein, je te le dis tout de suite.
C'est assez galère.
C'est mort de chez mort. Hein.
C'est assez galère, mais il est censé être accessible.
Ah ouais ?
Vous vous trompez.
Mais il est censé être accessible, normalement.
Si je reprends mon article du Guardian, ouais. Justement, ils disent que c'est outre-Atlantique que les déplacements en fauteuil sont les plus aisés. À Los Angeles et Washington, les cartes des métros se superposent parfaitement entre valides et handicapés.
Oui.
Oui.
Ouais, moi, je pars de New York.
Et New York présente une copie légèrement meilleure que Londres, avec presque un quart des stations totalement accessibles.
Oh.
Donc, c'est mieux que Paris, dans tous les cas.
Ouais.
Et
après,
Tokyo...
un quart des stations à New York, c'est pas grand-chose. Hein,
mais... Oui, mais c'est déjà ça.
Ouais,
c'est déjà
ouais.
beaucoup mieux que Paris. Et Tokyo nous dit que 186 stations sur 211
ouais.
sont totalement accessibles.
Tokyo, c'est quasiment full accessible okay. pour les personnes en fauteuil.
Donc, Los Angeles, Washington, en tout cas, sache que tu peux y aller tranquille.
T'as déjà
quoi.
Fait Tokyo ou pas ?
Non, j'avais.
Tokyo, c'est vraiment très, très bien pour les fauteuils, sauf que... Bah, il n'y a quasiment pas de trottoir, donc les trottoirs, c'est approximativement la route sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Mais les voitures font très attention, elles sont très petites, et les gens sont très petits. C'est vrai.
Tout est petit.
Toutes les rampes de métro, tout est accessible. Tu as un agent pour mettre les rampes manuelles pour tous les fauteuils handicapés, il n'y a absolument aucun problème. Les ascenseurs marchent absolument tout le temps. Le gros problème de Tokyo, c'est qu'il est... c'est bizarre de dire ça, limite 3 aménagés du coup pour les personnes à mobilité réduite et toutes les rues sont du coup nervurées pour les personnes malvoyantes. Donc en fait, quand tu es en fauteuil, tu es en permanence en train de rouler sur des bandes jaunes avec du relief. Vous voyez ce que je veux dire, des bandes rugueuses. Des bandes rugueuses. Et ça peut être super gênant pour se déplacer et rouler des fois.
Moi, j'ai une problématique à Paris, c'est que pour les personnes malvoyantes et donc aveugles, il y a des rubbers, en fait, des trottoirs où il y a des petites boules. Donc c'est super bien pour eux, c'est cool. Mais c'est vrai que pour le fauteuil, c'est un peu galère parce qu'en fait, les roues se prennent dedans et c'est pas hyper pratique. Mais...
Battle de handicap,
voilà,
c'est horrible.
Voilà, c'est ça. Enfin, va falloir trancher, aveugle en fauteuil. Pas les deux.
T'as fait quelques pays d'Afrique du Nord aussi, hein, il me semble, dans tes voyages, Égypte.
Non, Égypte, j'ai pas fait, mais j'ai fait Maroc.
J'ai
fait Tunisie. Et ça allait, franchement, c'était pas si mal que ça. Et là où j'étais étonné, c'est au Brésil aussi. Dans un pays où je pensais qu'il y avait un peu plus de... où ça a été un peu compliqué, bah en fait, on trouve facilement les solutions. Les gens sont beaucoup plus proactifs sur la question. Donc non, j'étais assez étonné au Brésil.
En tout cas, ce qu'on peut constater, Berlin remporte tous les suffrages. Et Berlin remporte aussi les suffrages des cyclistes.
Oui,
hein. Il faut le savoir. Hein. Cette ville a l'air d'être la meilleure ville européenne en termes de mobilité.
Moi, je n'y suis jamais allé. Est-ce que tu y es déjà allé?
Non.
Et ben, ça me donne très envie d'y aller.
C'est trop hipster pour moi. Mais
bon, tu vas à Tokyo, ça va?
Tokyo, c'est pas hipster.
Bon, bien sûr que si.
C'est hipster de fou, Tokyo.
Bah oui,
c'est quoi ces histoires? C'est nouveau. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des grandes communautés fans de jazz là-bas. Mais écoutez, oui, pourquoi pas. Hein. J'adorerais vous faire découvrir aussi Tokyo. Il y a pas mal de vidéos qui tournent d'ailleurs sur Internet sur les différentes villes du monde. Voilà, en fauteuil, sont-elles accessibles, sont-elles pas accessibles? Il y en a qui sont réalisées souvent par des valides qui se mettent en fauteuil. Ça, je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça.
Absolument.
Mais... No go.
No go.
Voilà, exactement.
Drapeau rouge.
Voilà, exactement. Voilà. On est d'accord.
Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je risque d'être vulgaire, mais c'est les pires personnes, je pense.
Voilà, okay. Tu vois l'idée. Et ensuite, après, y en a qui sont réalisés évidemment par des vrais personnes. Tu me disais que tu suivais toi-même quelques youtubeurs en fauteuil qui partageaient leur quotidien ou peut-être...
Oui, j'avais des... Bah récemment, là, j'ai découvert un youtubeur américain qui, bon, lui, pour le coup, il est paralysé, donc je crois que ça fait 8 ans qu'il est en fauteuil. C'était un valide avant. Et du coup, lui, il propose des exercices de fitness, etc., en fauteuil. Il propose aussi des techniques pour pousser son fauteuil plus rapidement. Et tout. Enfin, il y a des tutos, etc. Et c'est des choses que moi, personnellement, j'avais jamais vues.
Ah ouais?
Surtout sur le YouTube français et tout, c'est pas des trucs qu'on voit. Et donc, c'était vachement inspirant.
Quel est son nom?
Ah, malheureusement, là, je ferais que je prenne mon portable.
Ouais, c'est dur de se souvenir du nom des youtubeurs.
Voilà, c'est ça.
Ils tombent dans tes recos, mais t'oublies leur nom
mais
maintenant.
Mais je peux, si vous avez une page Twitter ou quoi, je pourrais vous...
Mais oui, on mettra ça au moment de la... Ouais.
Voilà, il y a notamment aussi un compte Instagram de deux frères, je crois, qui sont en fauteuil, qui en fait voyagent beaucoup et qui postent un petit peu leurs recos pour les voyages, etc., qui sont vachement... inspirant, mais encore une fois, j'ai pas le nom en tête.
Tu nous les donneras et comme ça on pourra le mettre au moment de la publication de l'épisode, ça peut intéresser beaucoup de monde.
Ouais, non, parce que pour le coup, c'est vraiment utile. Quoi.
Voilà, donc pour toi, voyager reste possible. On est d'accord que, en fait, même si c'est ton quotidien depuis toujours, tu ne t'es pas habitué à la galère que ça est d'être en fauteuil, mais tu sens des améliorations par rapport à quand tu étais plus jeune.
Oui, ça, disons que ça prend du temps, mais il y a quand même eu des améliorations. Bon, après, je suis né dans les années 90, donc j'ai envie de dire, heureusement que ça a évolué. Mais c'est vrai que c'est un motif d'espoir pour les générations futures. Et donc, il y a eu des choses de fait quand même.
Question, évidemment, ça sera une des dernières questions de cet épisode, mais... L'objectif, en tout cas ici à Paris, c'est les Jeux paralympiques et olympiques de 2024. Beaucoup de promesses ont été faites sur l'accessibilité de la ville parisienne pour que ce soit les touristes, mais aussi les personnes à mobilité réduite qui vont venir participer ou suivre les Jeux olympiques. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Paris 2024 ça va bien se passer pour les personnes en fauteuil ou il y a aucun moyen que ça se passe bien.
Mais on est sûr qu'il y a des Jeux Olympiques en 2024. j'ai
et bam.
En fait, quand on regarde autour de nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression. Mais oui, je t'assure.
Il y a une blague sur Twitter qui me fait beaucoup rire, c'est quand t'es un peu inquiet sur les deadlines que tu vas avoir et tout. Je pense que dans 500 jours, il y a les Jeux Olympiques à Paris et que Anne Hidalgo a toujours rien fait. Non, mais blague à part, enfin, là-dessus, ça va être une catastrophe. Honnêtement, on va être. Je pense qu'on va être la risée du monde, au moins au niveau de l'accessibilité.
Ouais, ouais.
Je pense que les gens sont pas prêts, en fait. Les gens sont pas prêts. Ça va être terrible.
Chloé, tu penses aussi que ça risque d'être difficile? Je sais que tu adores
Anne Hidalgo. Je ne me prononce pas car il y a Anne Hidalgo, mais oui,
bien
je
sûr.
Je
non,
ne
mais
sais
elle pas. Fait, elle fait probablement tout son possible, mais tu... Enfin, elle est...
bah, tu le disais toi-même, même, on le voit sur les aménagements du métro. Toi, ton tram décalé de 5 ans, toutes les stations qui sont prévues normalement pour les Jeux annoncent des retards. Donc non, je suis assez pessimiste.
On n'aura pas le prolongement de la ligne,
après,
tu
si
penses,
ça a pu
les
lancer... les travaux,
mais
si ça
lance une
moins,
impulsion,
voilà.
Bien sûr.
Après,
mais on va doubler la population parisienne durant cette période des Jeux Olympiques. Hein. Vous rendez compte déjà à quel point c'est galère en ce moment.
Mais après, pour prendre un petit peu la défense d'Anne Hidalgo, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la région également.
Évidemment.
Donc Valérie Pécresse.
C'est pas Pécresse, la région, c'est Pécresse, bien
voilà,
sûr.
Voilà, Valérie Pécresse, si tu nous entends.
On lance un appel.
Voilà, tu peux aussi faire des choses.
Alors moi, j'ai une question peut-être vu qu'on arrive à la fin. Justement, tu disais que le jeune homme avec qui tu t'étais entretenu n'avait jamais discuté avec une personne en fauteuil avant. C'est vrai qu'on est peu confronté aux personnes en fauteuil dans l'espace public. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu nous recommandes de faire, à nous les valides, quand on, par exemple, dans le bus, est-ce que c'est bien d'aider la personne? Est-ce que il faut... Enfin, comment ça se passe? Moi, je ne sais jamais trop quoi faire et je veux bien ton avis là-dessus.
Alors, très bonne question. Il faut savoir déjà de ne pas aider la personne sans lui demander. Déjà, je pense que c'est la première chose à faire.
D'accord. Okay.
Il y a beaucoup de personnes en fauteuil qui mettent sur leur... je sais plus comment on appelle ça, les poignets derrière.
Ouais.
Ils mettent des trucs en gomme avec des pics, justement, pour que les personnes valides ne prennent pas le...
Parce que ça arrive souvent que des gens te poussent.
Ah oui, quand
ou...
j'étais en fauteuil manuel, moi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, c'est que c'était insupportable. En fait. Qu'en fait, quand les personnes valides voient que tu vas pas assez vite, ils estiment que tu galères, donc ils te poussent.
Mais
c'est
non.
Hyper infantilisant.
Ouais.
De surtout pas faire ça.
Ok.
Si vraiment vous voulez aider une personne handicapée, déjà, demandez-lui.
Ok.
Et soyez à l'écoute. Et si elle vous dit non, surtout ne pas le prendre.
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'il y en a aussi, quand on leur dit non, ils sont vexés.
Oui.
On leur a empêché de faire la bonne action de la journée.
Oui,
t'as l'impression
de
leur enlever un truc. Juste, des fois, on a juste envie d'être autonome ou d'être seul avec l'autre musique. Et on n'a pas envie d'être dérangé. Quoi. Donc, il se peut que des fois, on soit pas aimable. C'est aussi possible.
Bah, comme nous tous.
Voilà,
hein,
comme nous tous.
Donc, ça nous arrive.
Notre vie au quotidien.
Oui.
C'est ça, mais souvent les gens ont du mal à comprendre que les personnes handicapées peuvent être désagréables des fois, mais
oui.
Ça peut nous arriver d'être court aussi, tout simplement, et de pas, juste pas avoir envie de discuter à ce moment-là, et de voilà, et puis surtout, ne dites pas des phrases du style « Ah, vous êtes courageux » ou okay. Des, voilà, des trucs hyper infantilisants.
Ouais, pas de condescendance.
Pas de pitié, évidemment, okay. Mais ça, c'est des trucs qui, franchement, nous bouffent au quotidien, quoi. On n'est pas des leçons de vie, on n'est pas des... Enfin, nous... Moi, j'ai pas choisi d'être en fauteuil,
ouais,
donc clairement, j'ai aucun courage à être en fauteuil, quoi.
Oui.
C'est juste, je subis la situation, donc
faut
que je le fasse, mais voilà, je suis pas plus courageux qu'un autre, quoi. Donc ça, c'est important de le dire aussi, quoi.
Bon, j'espère que tout le monde a bien écouté ça comme reco, parce que je pense que c'est vraiment plus important, quoi.
Merci beaucoup, Hugo, d'être venu
Hugo.
Parler de tout ça. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Chloé, pour m'avoir accompagné durant cette interview. Demain, très intéressant.
Et surtout, si ça vous a plu, déjà, n'hésitez pas à poser des questions à Hugo via nos réseaux, choses comme ça, ou même... Est-ce que tu as un Twitter, Hugo?
Oui, j'ai un Twitter.
Qu'est-ce que c'est ton Twitter?
C'est anticapitaliste.
Anticapitaliste, c'est génial.
Voilà,
c'est le meilleur nom de Twitter d'histoire.
Avec un K.
Anticapitaliste, Instagram?
J'ai un Instagram, mais il est privé. Donc
ok, donc pas d'Insta. Est-ce que t'es sur TikTok? C'est ma passion.
Je suis pas sur TikTok.
Oh là là là.
Je me préserve de ça.
Comment tu peux avoir la passion de ce truc, toi?
Eh bien, figurez-vous que sur TikTok, j'adore TikTok. Et est-ce que je peux recommander du coup deux comptes ? Est-ce que je me rends compte qu'en fait, évidemment, je suis des comptes de personnes
j'ai
en fauteuil ?
J'ai été très condescendant.
Alors, je crois qu'ils sont très connus et tu me diras ton avis, je sais pas. Je tombe souvent sur des vidéos de Roro le costaud. Voilà. Et par contre, aussi, celui que je suis beaucoup, c'est Arthur Beaucheron.
Arthur, j'aime beaucoup parce qu'il donne une vision très, très positive du handicap et c'est très cool.
Ouais.
Bon, après, il est jeune, donc...
Oui, c'est un ado, presque.
Voilà.
Hein, ouais.
Donc, très... Enfin, très influenceur, quoi.
Ok, d'accord.
Donc, mais c'est bien aussi d'en avoir parmi les personnes handicapées, donc force à lui, mais je ne suis pas le plus grand des fans non plus. Mais...
Ok. Bon, bah, de toute façon, il y a de tout pour faire un monde. Ouais, hein, voilà, quoi. Mais en tout cas, c'était les deux que j'avais retenus. Si toi, tu as d'autres recos, bah, tu nous les retrouveras pour nous dire des comptes à suivre. Parce que justement, il faut aussi qu'on apprenne aussi, qu'on soit confronté et qu'on découvre la vie des gens en fauteuil. Quoi.
Tout à fait. Merci évidemment à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Merci à ZU d'avoir réalisé le podcast aujourd'hui. Je vous rappelle que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Cette petite séquence d'interviews qui sont un peu différentes, hein, finalement, de ce que l'on avait l'habitude de faire. Mais on vous avait dit que sur cette saison, on va vous proposer des choses un peu différentes. Comme ça, tous les mois, on a très envie d'en refaire.
Ouais.
Voilà, sur d'autres types de handicap. Si la structure vous plaît, dites-le nous. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, peut-être qu'on n'a pas abordé. Bon, déjà, ça fait une heure et demie, donc forcément, stop, dites-le nous aussi. Ça sera avec grand plaisir que nous prendrons tous vos retours. Encore merci, Hugo.
De rien, merci à vous.
Merci, Hugo.
Merci, Chloé, et merci à vous tous. Bye bye.